Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8 heures sur les ondes de Radio Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce, jusqu'à 10h. Anthony au micro, 8h01 exactement sur les ondes de Galère. On va saluer l'absence de notre ami Richard, qui n'est pas là, mais qui reviendra prochainement nous rejoindre, évidemment. Christian est à mes côtés, que je vais saluer incessamment sous peu. Juste avant ça, je vous rappelle qu'on est audible sur la bande FM par le biais du 88.4, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. On va donc balayer l'actualité quelques petites minutes. On aura le plaisir de recevoir et de parler de basket ce matin avec notamment le Marseille Athletic Campus sur les ondes de Galère pendant près d'une demi-heure, 8h10, 8h40. À 8h45, c'est le dossier central avec notamment l'émission Economicus d'Economicus, Fabrice Aubert et Dany Bruet pour nous parler notamment d'un volet géopolitique, nous parler de l'Ukraine et d'un point de vue satirique. Et puis on conclura notre magazine de 9h30 à 10h par le volet culture et notamment par une pièce de théâtre où on pourra mêler la musique, la danse, la chorégraphie, la mise en scène avec notamment Valérie Miquel pour le projet Illusion qui se passera dès ce samedi au théâtre du Lacidon. On vous rappelle que le téléphone n'est pas accessible en ce moment et encore pour quelques semaines, donc ne composez pas le 04 91 08 28 10 comme vous en avez l'habitude depuis tant d'années, restez tout simplement à l'écoute sur la bande FM du 88.4. Bonjour évidemment auditrice auditeur et bonjour à toi mon cher Christian.
Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour à toi Anthony, et on débute par quelques infos spéciales Galère, c'est ça ?
Exactement, les infos Galère, je t'en prie mon cher Christian.
Eh oui, donc on va voir un petit coup d'œil sur les inégalités en France, c'est les plus riches, toujours les plus riches, c'est ce que dit la note de la Direction Générale des Finances Publiques, c'est une note de l'administration fiscale qui éclaire la situation des foyers les plus riches du pays, en revenus et aussi en patrimoine. Donc c'est un monde à part dont le portefeuille a spectaculairement gonflé depuis 20 ans, ce qui a accru les inégalités. Donc on voit bien que finalement, le fameux ruissellement des richesses, il a profité à certains et pas à d'autres. Et c'est ce brûlot militant d'une langue en colère qui montrait trois chiffres en épingle pour dénoncer le capitalisme financier et ses vents qui emportent tout. Le document dont on parle est du genre réverbatif, émaillé de tableaux devant lesquels nos vices français sourcillent. Et pourtant, il montre bien que ce sont les foyers les plus riches qui ont bénéficié d'encore plus de richesses, faisant éclater une égalité assez spectaculaire.
Exactement, et on rappelle, Christian, évidemment, que ce genre d'informations, on les traite depuis 15-20 ans sur les centres de Radio Galère et qu'elles sont toujours les mêmes et que les plus riches sont toujours plus riches et que les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Et ça, forcément, c'est un équilibre qui est difficilement acceptable moralement et qu'on a peut-être matière, en tout cas, à rectifier le tir, notamment par une volonté politique, et ce n'est pas fait. Et c'est pour ça que des militants de certaines ONG sont en colère, qui nous montrent les chiffres qui sont en épingle pour dénoncer ce capitalisme financier, et ces vents, au final, qui emportent tout et qui posent un vrai problème d'ordre moral, Christian.
Exactement, puis c'est pas un éclairage fait par la gauche ou l'ultra-gauche, c'est une note de l'administration fiscale, donc c'est quelque chose d'État qui montre bien que ces inégalités existent, perdurent et s'accroissent au niveau de la France. Donc ce n'est pas un secret, ce n'est pas, comme tu l'as dit, ça fait très très longtemps qu'on le rappelle, mais c'est toujours bien de rappeler que finalement, la répartition des richesses ne se fait pas de façon équitable encore pour notre pays. On va avoir une autre information, c'est le scandale des eaux en bouteille. C'est le fameux lobbying de Nestlé qui a fait un lobbying au niveau de l'État pour permettre à ces bouteilles soi-disant d'eau minérale pure, cristalline et toute la publicité qu'on fait dessus. En vérité, c'était des eaux qui ont été traitées justement parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères d'eau minérale qu'elles devaient obligatoirement révéler. Donc on voit que là, ça c'est une... En quelque sorte, c'est un lobbying au niveau de Nestlé qui a fait une sorte de chantage au niveau de l'État, au plus haut sommet d'ailleurs, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a des ministres, des personnes importantes qui sont impliquées, leur disant que finalement, si ce secret ou si cela venait à être révélé, Donc ça aurait une conséquence pour l'emploi, parce qu'on sait que Nestlé, c'est un gros pourvoyeur d'emplois en France. C'est aussi un gros pourvoyeur de richesses avec ses fameuses boissons. Et donc voilà, on voit bien que tout ça a étouffé aux dépens de la santé des Français, puisque finalement, on croit boire de l'eau qui est très pure, et on boit une eau qui est traitée, parce que justement, qui a été contaminée au niveau de la source. Donc c'est en quelque sorte, c'est un scandale, hein, c'est un scandale d'État, puisque c'est au niveau des ministres, au niveau de la tête de l'État que tout cela a été étouffé, soi-disant pour la raison d'État, soi-disant pour les emplois, mais en vérité, qui en pâtit, c'est la santé des Français, parce que
Christian,
on s'est fait tromper.
On peut rappeler aussi que Nestlé, il y a un lobbying qui est quand même
très puissant, conséquent,
bien sûr. Astronomique, avec des recettes faramineuses, et qui pose un vrai problème, encore une fois, d'ordre moral, et de se dire que l'eau est, fait qu'on a un vrai scandale des eaux en bouteille, c'est un vrai problème, mais on l'a plusieurs fois évoqué, on dit que l'eau, c'est l'or bleu, forcément elle pose problème, et elle pose problème sur le plan moral, Christian.
Exactement, c'est le plan moral, parce que finalement on croit boire de l'eau qui est saine, sachant pertinemment qu'on nous parle de pollution dans les nappes phréatiques, on nous parle de pollution au niveau de l'air, enfin de l'alimentation. On se disait peut-être qu'il y avait une niche qui était préservée, c'était les eaux minérales qui étaient en bouteille, estampillées avec des grandes marques, etc. Ben on voit que là même là aussi c'est touché, c'est-à-dire que finalement on n'arrive à plus avoir confiance en plus rien dans tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on respire. Et ça, c'est vraiment assez dramatique, en voyant la situation de la planète, en voyant la situation du monde d'aujourd'hui. On fait un petit bond sur l'international avant de passer à nos invités qui viennent d'arriver en studio. Et on va aller du côté des USA. Et bien sûr, on ne peut pas éviter les USA avec la nouvelle présidence Trump-Musk, on peut dire, puisque c'est finalement une association assez hétéroclite, mais qui, pour le moment, semble faire... Je ne dis pas que ça marche, hein, je dis tout simplement, semble faire des éclats au niveau de la surprise de ce qui est en train d'être fait. Et les deux, Musk et Trump, suspendent l'USAID. Alors l'USAID, c'est l'Agence fédérale pour l'aide au développement. On le rappelle, c'est un organisme américain qui permettait d'aider les pays en défavorisés pour aider à se développer, pour la faim, la culture, la santé, etc. Donc c'était très très important, c'était des sommes qui étaient assez importantes, étaient octroyées par cet organisme. Et bien tout simplement, ils ont décidé d'arrêter le fonctionnement de l'USAID, d'arrêter les fonds qui étaient répartis au niveau de la planète pour les pays en difficulté. Et ça, ça va avoir des conséquences très très importantes, puisque on rappelle que beaucoup de pays dépendent de cette aide, vivent pratiquement à crédit à cause de mal développement de leur pays, de la famine qui sévit, des enfants qui sont dans les rues, de la santé qui est dégradée. Eh bien, ça va tout simplement aggraver la situation de ces pays, ça va aggraver la situation de ces personnes, ça va causer des morts, bien entendu, parce que quand on n'y a plus la santé et quand il n'y a plus la nutrition pour des enfants qui sont malnutris, eh bien, ça aussi, ça entraîne de la mortalité. Donc, on voit bien encore une des conséquences de ce changement de politique, de changement au niveau de l'État, au niveau des USA, qui, pour le moment, c'est tout à fait négative et dramatique pour la planète, malheureusement. Je crois qu'Anthony, on reçoit nos invités qui sont là, oui, voilà.
Exactement, oui. Nos invités sont là, Christian.
On va
merci.
Les saluer d'ailleurs.
Je reçois des textos sur le standard, donc je le répète, le standard ne fonctionne pas, je suis désolé, voilà. On n'a pas l'interaction ce matin. On a fait une petite revue de presse et Christian a maîtrisé ça de main de maître.
Du voilà, mieux que
quelques
j'ai
petits
pu.
Soucis, mais c'est les impondérables avec nos invités, oui, le trafic routier, les problèmes sur la route aussi. Donc on va démarrer comme prévu. Cet éclairage consacré à Marseille Athletic Club, on a le plaisir de recevoir Raoul Ramdine, qui est directeur général, qui est avec nous sur les ondes de Radio Galère ce matin pour l'évoquer. Il est accompagné de Mathilde Coupé de Camartin, qui est la responsable technique de MBM. On va vous parler notamment de basket, on va vous parler du SMUC, on va vous parler de Marseille Athletic Campus. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça est ciblé vers les jeunes, mais pas que, avec des projets extrêmement bien menés. Ils sont avec nous et on va les saluer, évidemment. Raoul, vous allez nous présenter votre structure. On va vous saluer, évidemment. Bonjour Mathilde, dans un premier temps. On va être galant, Raoul, évidemment. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Voilà, merci d'être sur les ondes de Radio Galère. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes responsable technique dans la structure MBM, on aura l'occasion de l'évoquer. Et donc Raoul Ramdine, qui est le directeur général de Marseille Athletic Campus. Bonjour Raoul.
Bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est la structure, c'est Marseille Athletic Campus.
Exactement.
Donc c'est une structure qui est destinée aux jeunes et qui leur permet de poursuivre un parcours à la fois dans le sport, mais aussi scolaire, académique, ou poursuivre une formation. Et nous, on est là pour les accompagner.
Pour les coacher, quoi, en quelque sorte.
Voilà, packager tout ça. Et bon, ça y a un travail depuis en amont pour les aider à s'orienter, puisque bon, beaucoup de jeunes sont un peu perdus. Vous savez, le système scolaire, ça reste très théorique. Et bon, on les accompagne dans l'orientation, dans les choix de leur filière, et aussi une fois qu'ils sont engagés dans une filière, on les suit au niveau pédagogique pour s'assurer que les résultats sont
voilà,
sont là.
C'est des jeunes, on les suit au niveau pédagogique, au niveau scolaire, mais c'est aussi des jeunes athlètes, je suppose, voilà. Puisque l'équilibre est là, c'est entre des jeunes athlètes qui doivent aussi poursuivre leurs études et à la fois aussi progresser dans le sport.
Exactement.
Parce que c'est un peu à l'américaine, ça, c'est ce que fait aux États-Unis. Il y a une partie scolaire, il y a une partie
avec une touche française quand même, c'est
important
de le rappeler. Quand
même. Alors effectivement, on s'inspire du modèle américain.
Oui, c'est ça.
Mathilde, comme moi, on a des parcours qui nous ont fait travailler aux États-Unis.
Et voilà, on connaît bien l'un des
et étudier aux États-Unis. Donc l'idée, c'était d'adapter ce modèle-là
au modèle français
à ce qui peut se faire en France.
Est-ce que c'est possible?
Alors on est obligé de combiner avec, puisqu'on a un système scolaire qui est assez rigide quand même.
Oui, c'est ça, c'est très rigide en France, c'est ça le problème.
Et la place du sport n'est pas toujours très valorisée. Mais
bien qu'on ait beaucoup de talent et bien qu'on ait quand même un éclat, il faut le rappeler, sur le plan international.
Et des champions, on a vu les médailles d'or.
Non, mais donc, complètement, et puis sur beaucoup de sports, il est vrai que c'est pas dans la culture, dans l'ADN, en tout cas de tous les jours, de développer le sport comme le peuvent le faire les pays anglo-saxons ou les Américains, où notamment on a 4-5 après-midi qui sont dédiés au sport. Chez nous, quand on fait 2 ou 3 heures de sport par semaine au collège,
c'est déjà le bout du monde.
Exactement. Et bon, malheureusement, nous qui sommes dans le sport, vous avez entendu, hein, l'une des premières mesures que le gouvernement a prises après les JO, c'est de couper les budgets destinés au sport.
Le sport, ça n'a pas l'importance, c'est ça qu'en gros on se dit.
Et c'est bien stupide d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Et en fait, nous, la structure Marseille Athlète Campus, on s'appuie sur deux clubs partenaires, le SMUC et MBM.
Je salue le SMUC, qui est un club, j'ai été éducateur sportif à l'époque, alors pas au SMUC, mais je connaissais bien Johan Picamiglio.
Au foot, exactement. Je l'ai croisé hier soir.
Dans le volet foot, et on s'est bien croisé pendant quelques années. Voilà, quand j'étais au Caillol, à Herbel, et même dans mon petit club de Saint-Victoré, et ils font un boulot remarquable, et donc c'est en effet un club partenaire, on peut le dire, c'est le club partenaire du MAC, c'est un peu ça l'idée.
Alors oui, alors il y a le SMUC et il y a MBM.
Oui, MBM, oui.
Et effectivement, je vais céder la parole à Mathilde. Quand je vous parlais de l'inspiration US, moi je travaille moi-même en collaboration avec la NBA sur d'autres projets.
Ouais, c'est ce qu'on a vu.
Et Mathilde, qui pilote d'un point de vue technique MBM, va vous parler un peu, enfin brièvement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, de son parcours aux US, et c'est ce qu'elle essaie de transmettre quotidiennement aux jeunes qui sont à MBM.
Mais avec grand plaisir. Voilà.
Et Mathilde, elle est jeune, hein, faut pas croire que c'est une vieille dame.
Non, absolument pas. La transition est toute faite.
La transition est faite, Mathilde.
Mathilde, pour en parler, j'en profite de saluer Barbara Bosquet, qui a servi de relais, qui a fait cette connexion aussi entre nous. Donc, je la salue. En effet, donc, Mathilde Coupé de Camartin, responsable technique MBM, parlez-nous dans un premier temps de votre parcours et puis de votre fonction au sein de cette structure-là. On a encore 25 minutes. On veut absolument faire un éclairage et un coup de cœur sur notamment, je parle de manière générale, Marseille Athlète Club, mais évidemment différentes structures, différents points qui gravitent autour de cela. Et c'est pourquoi vous êtes ce matin sur les ondes de Radio Galère. Dites-nous tout, Mathilde.
Alors, de mon côté, après avoir fait, j'ai fait le pôle espoir basket en Guadeloupe. Après, je suis partie à l'âge de 15 ans habiter aux États-Unis pour poursuivre mon cursus basket études. Je suis restée, du coup, 7 ans et demi là-bas.
Ça veut dire qu'en Guadeloupe, on ne peut pas le faire, c'est ça? Voilà, il faut aller aux États-Unis. Voilà, même États-Unis, pas en France. Voilà. Bon, la Guadeloupe, c'est la France, attention. Même pas en métropole.
Voilà, c'était plus près les États-Unis.
Et en plus, c'est plus près. C'est plus près
géographiquement. Parlez bien face au micro, Mathieu.
Je me suis dit, entre la France et les États-Unis, bon, le choix...
Il n'y a pas photo, c'est ça.
Donc, je me suis retrouvée là-bas, Orlando, pendant 7 ans et demi, où j'ai fait le lycée et l'université. Après, bon, il y a le Covid qui est apparu, donc je suis rentrée en Guadeloupe. Et j'ai eu du coup l'opportunité avec Raoul qui m'a parlé du projet qui se faisait à Marseille. Donc là, je me suis dit, bon, ben, vu que c'est le projet basket, ça tourne toujours autour un peu du basket américain avec l'NBA, développer le basket dans la région PACA. Donc je me suis dit, c'est un projet qui me plaît, donc je me suis lancée. Donc actuellement, je dirige, comme il a dit, le club MBM, Marseille Basketball Métropole. Voilà. Nous avons donc deux équipes engagées, une équipe U15 garçons, une équipe U17 garçons. On n'a pas encore de filles l'année prochaine.
On
espère, c'est très très important.
Il faut faire un appel sur Radio Galère.
C'est exactement sur quoi on travaille. L'année prochaine, nous allons ouvrir du coup deux autres équipes, une équipe U13 filles et une équipe U13 garçons.
Très bien.
Donc du coup,
ça se fait très bien dans le foot. D'ailleurs, le basket féminin, il a plutôt le vent en poupe.
Exactement.
C'est plutôt bien. Peut-être un peu moins. C'est un peu moins populaire chez les jeunes, évidemment.
Chez les garçons, non, mais chez les filles, c'est vrai que peut-être c'est moins.
C'est un peu compliqué, surtout à cet âge-là.
Elles sont compliquées, les filles, ce que vous voulez dire.
Non, c'est pas compliqué. Je vais faire du sport co. C'est un peu compliqué, surtout là où nous sommes. Donc, du coup, nous avons du coup, une équipe U17 et notre équipe U17 l'année dernière qui a fini champion du département.
Ah, ben voilà.
Alors que c'était sa première année engagée en championnat, qui a fini championne. Donc là, on espère avoir les résultats l'année prochaine, à la fin de la saison. Donc, à voir. Donc, on fait aussi du coup une passerelle avec le SMUC. Donc, on a des joueurs qui sont à MBM.
On rappelle un petit peu le SMUC rapidement.
Qu'est-ce que ça veut dire déjà, SMUC,
pour ceux qui sont Marseillais Club Universitaire.
Voilà.
Et oui.
Une structure qui a un gros quand même relais, notamment, je parle du foot, mais pas que, justement.
Et une ancienneté, parce que le SMUC, ça fait très longtemps qu'il est.
Il y a 18 sections.
Voilà. C'est 18 sections, j'allais dire une dizaine, vous voyez.
C'est un gros morceau.
C'est un très gros club.
C'est un gros club, oui.
Et comme disait Mathilde, on travaille en collaboration, SMUC et MBM, dans le cadre d'une CTC. C'est une coalition de clubs. Et donc, les joueurs qui sont sous la direction de Mathilde à MBM peuvent aussi jouer au SMUC. Il y a une licence qui leur permet de faire les deux. Donc, ça crée une passerelle.
Question, comment vous fonctionnez? On a dit, le système français est très rigide au niveau scolaire. Au niveau du sport, c'est autre chose aussi qu'aux États-Unis. Comment vous arriverez à faire fonctionner ces deux ailes, d'un côté le scolaire et le côté du sport, dans votre structure? D'abord, où vous êtes situé? Dites-nous un petit peu. Pour ceux qui veulent se joindre à vous, ou s'il y a des jeunes qui vous écoutent, et certainement il y en a,
Alors MBM, on est dans le 10e
arrondissement.
Voilà, 19e au niveau de Champs-Saint-Loup. Donc on utilise les gymnases de Pont-de-Vivo.
Qui sont mis à votre disposition par quoi? Par les groupes scolaires, par les établissements?
Par la mairie.
Pour féliciter la mairie, justement, pour ce travail-là. Est-ce que vous travaillez
de rappeler les partenaires et les soutiens, évidemment,
exactement.
Ça fait partie du jeu.
Et les collèges et les lycées qui sont peut-être associés avec vous, je ne sais pas, dans le 10e.
Alors, on a des créneaux d'entraînement entre le SMUC et MBM qui sont soit à Pont-de-Vivo, au collège des Bartavelles. Et sur la partie SMUC, il y a le lycée Jean Perrin.
Le lycée Jean Perrin qui marche aussi avec vous, c'est ça?
Et sur le campus universitaire, le Technosport de Lumini. Et évidemment... à le gymnase de Bergas au stade Jean Bouin, là où il y a
le QG.
Voilà. Et en fonction des entraînements, des catégories, des groupes d'entraînement, les séances sont
en fonction
des catégories. Donc ça se répartit, ça dépend. Nous, de notre côté, on a 2-3 entraînements par semaine plus les matchs. Et du côté des joueurs du MAC qui, eux, sont au SMIC, ils ont 5 entraînements par semaine. Parce que, eux, ils
donc, il y a un vrai rythme quand même qui est installé.
Il y a un vrai rythme, 5 entraînements par semaine. Samedi matin, on fait suivi scolaire. Et après, 1h30, voire 2h30 d'entraînement. Et après, le dimanche, ils ont match. Donc, on fait en sorte de toujours les tenir actifs. Pour le moment, le seul jour off qu'ils ont, c'est le lundi. C'est le lundi soir.
Sinon, ils sont toujours actifs les autres jours.
Ils ont entraînement tous les jours.
Ils sont bien rythmés. Voilà, un mot sur la pédagogie aussi. C'est important de le rappeler parce que le sport est essentiel, mais la transmission des valeurs du savoir, la pédagogie, le cadre, la rigueur, ça aussi, c'est important. Donne-nous un petit peu les éléments. Moi, j'ai reçu le dossier de presse, donc c'est plus facile en tout cas. Où vous indiquez voilà, que Marseille à tête campus est déterminé à progresser, dédié à la réussite. Et notamment, je trouve ça, c'est très bien fait, le campus avec les 4 pôles. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Mais surtout, vous avez dans ce PDF-là, on a une semaine type. Voilà, avec le réveil jusqu'à l'extinction des feux. Donc c'est 6h30 le matin jusqu'à 22h. C'est quand même intéressant d'informer nos auditeurs, auditrices, sur le rythme que peut avoir un jeune. Alors évidemment, il faut du talent, c'est une évidence. Mais aussi... une rigueur et un mental. Et ça, dans le sport, on le sait, c'est primordial, Raoul et Mathilde.
Alors, il faut savoir que c'est la base. C'est la base de tout. La première chose qu'on essaie de leur inculquer, c'est une forme de structure, de discipline. Et quand vous parlez du planning, effectivement, vous savez, beaucoup de jeunes rêvent de sport de haut niveau, veulent devenir professionnels dans certains sports. Et le message qu'on essaie de leur faire passer, on ne leur promet pas d'être pro. Juste de leur inculquer cette structure-là.
Et ces
valeurs-là. Et de les mettre au travail. Et effectivement, la semaine type, bon, ben, c'est pas très sexy, c'est pas très fun, mais c'est la réalité. Ils se réveillent tôt, le petit-déj, ils vont à l'école.
Alors, juste on parle de ça, mais c'est un système d'internat.
Oui.
Voilà, il faut le rappeler, c'est ça. Voilà. Ils sont pas à la maison, ils viennent pas à truc, ils sont en internat, donc ils suivent ce rythme parce qu'ils sont dans un lieu propice à cela.
Exactement.
Voilà, ça c'est important.
Scolarisés, du coup, la plupart sont scolarisés à Jean Perrin, donc on fonctionne avec l'internat, du coup.
C'est l'internat quoi de Jean Perrin qui
exactement.
Fait ça. Voilà, combien de personnes alors
tous les éléments, on a bossé le dossier. Vous
voilà,
voyez.
Voilà. Mais ils sont là, ils vont nous les expliquer, c'est leur
exactement,
boulot.
Exactement.
On va pas faire leur boulot à leur place.
C'est ça.
Sinon, c'est pas à peine qu'ils viennent.
Alors cette année, on en a à peu près. Ouais, 25 à peu près.
25 personnes. Donc choisis sur le volet, comme on dit. Alors c'est parce que c'est difficile. Vous prenez pas n'importe qui. Il faut déjà montrer
quels sont les critères. Au-delà du talent, donne-nous un petit peu l'ADN et puis comment ça se passe, puisque les demandes doivent être quand même plutôt pléthoriques.
Et après, on parlera du côté financier. Mais bon, on commence par ça.
Alors les premiers critères, vous savez, c'est déjà des gens. On veut avoir des gens dont on sait qu'ils peuvent, qui seront en mesure de respecter ce cadre-là. C'est ce qui n'est pas évident, puisque bon, des fois, bon, on a des questions, des entretiens.
Alors quoi, il y a un psychologue qui fait une analyse. Comment ça se passe? Il y a un entretien, je suppose.
Il y a un entretien. Il y a des jeunes, des fois, qui viennent, ils font quelques entraînements. On évalue aussi leur niveau sportif. On évalue les bulletins. Ça, c'est très important.
C'est important de le rappeler.
Les appréciations, c'est pas que les notes. Vous savez, quelqu'un qui est souvent...
Il faut avoir une bonne conduite, c'est ça.
Après, ils seront amenés à être soumis à quand même une discipline qui est stricte. Donc,
il faut qu'ils puissent supporter cette discipline. C'est ça, en gros, c'est ça. Ouais.
Et puis, si vous voulez, il y a des jeunes qui... On n'est pas dans la recherche systématique du grand talent qui va devenir pro. Il y a des jeunes qui sont passés par la structure, qui font des parcours qui, pour moi, sont remarquables, même si ils n'ont pas continué dans le sport de haut niveau. Il y en a un qui est passé par la structure. Aujourd'hui, il est dans une école d'ingénieur à Lyon.
C'est une belle réussite, ça.
Sur le plateau, on a une réussite, puisque Mathilde, elle est revenue dans la structure... pour passer, après avoir obtenu son diplôme aux États-Unis, elle a obtenu un master de management du sport.
Magnifique.
Ici à l'Université Aix-Marseille. Et maintenant.
C'est pour ça qu'elle est responsable technique.
Voilà, exactement.
Voilà, ça a été le fleuron.
Voilà. Et maintenant, elle est dans la transmission. On a d'autres jeunes qui ont fait des formations, qui ont obtenu un diplôme d'encadrement du sport, des BPGEPS, des choses comme ça, qui eux aussi maintenant contribuent à MBM pour transmettre. Alors,
on le rappellera, oui, pardon, je m'excuse parce que je reçois quelques textos par rapport au SMUC, mais notamment vous évoquez le BPJEPS. On rappelle que ce sont des structures qui permettent, tout à l'heure on parlait de, et ça nous arrive souvent sur les ondes de Radio Galère d'évoquer ça, des jeunes qui sont un petit peu en perte de repères, qui ne savent pas, voilà, il faut le dire, il y a des, pour certains, l'école n'est pas faite pour eux, voilà, l'école n'est pas faite pour eux, et ils peuvent par contre largement être talentueux, se projeter dans des métiers dits sur le coaching sportif, sur des responsabilités techniques, sur autre chose. Et il y a le BPJEP qui se fait notamment, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque ça se faisait au CREPS, enfin au Pôle Esport, je sais que ça se faisait sur différentes structures, et ça fonctionne très bien. Et là-dedans, on peut évidemment développer des talents et développer des projets de vie aussi.
Exactement. Nous, on collabore beaucoup avec le Greta au lycée Saint-Exupéry. Il y a une autre formation avec un autre partenaire qui est une structure de formation qui s'appelle Adjan, où on a des jeunes qui ont été diplômés plus en management. Dans le BPJEP, c'est plus une formation technique, voilà, terrain.
Oui.
Et c'est des jeunes qui, aujourd'hui, forts de leur diplôme, sont en mesure d'encadrer, de transmettre. Et c'est extraordinaire de voir qu'on peut faire grandir ce nouveau club partenaire du SMUC, le MBM, avec des forces vives qu'on a formées il y a un an, deux ans, trois ans.
Nous former des cadres, en quelque sorte, c'est ça.
Ouais, voilà. C'est ça,
formation de cadres, c'est
important
de
le dire. MBM, ça veut dire, parce qu'on nous le sait, mais c'est important.
Marseille, basketball, métropole.
Voilà, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs, auditrices.
C'est
voilà.
Ça.
Marseille, basketball, métropole. Raoul, il y a plusieurs éléments et c'est extrêmement intéressant. Je reviens, je voulais poursuivre évidemment ce que vous avez dit, mais pensez à nous redonner un petit peu la semaine type, la journée type, puisque je reçois des textos, je vois que les gens sont...
Alors, ils veulent savoir si le déjeuner est copieux, c'est ça?
Non, mais c'est de mon réseau, voilà, puisque j'étais éducateur,
c'est
donc j'ai pas mal de textos,
le déjeuner.
Donc tant mieux. Mais ça intéresse, voilà. Mais je vous laisse poursuivre sur ce que vous souhaitez dire.
Allez-y.
Nous refaire la semaine type ou la journée type, Raoul.
Alors bon, concernant la journée type, bon, les jeunes qui sont à l'internat, ils doivent quitter leur chambre à 7h du matin, ils vont au petit-déj, ils ont leur sac d'école et leur sac de sport. Le sac de sport, ils le posent dans une bagagerie. Ils ont la matinée d'école, ils vont manger entre midi et 2h. Ils reprennent les cours en fonction de leur emploi du temps dans l'après-midi et ils ont entraînement en fin de journée. Et en fonction du site sur lequel ils s'entraînent, bah, s'ils sont dans le lycée même, ils y restent. Autrement, s'ils sont... sur le campus de Lumini, il y a des navettes qui les conduisent. S'ils sont au gymnase Pont-de-Vivo, ben c'est 5 minutes à pied.
Ouais.
Et en fonction de leur planning, puisque la force du Marseille Athlète Campus, c'est de personnaliser les contenus. Donc on a des jeunes, par exemple...
C'est la carte, en quelque sorte.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, la performance aussi.
Vous savez, il y en a qui ont un entraînement... Mathilde va me corriger si je me trompe.
Il faut le corriger. Hein.
Avec,
tout le temps.
Avec Mathilde à 18h, ouais. Parce qu'ils ont besoin de plus de travail. Ils vont manger et ils ont un deuxième entraînement avec le SMUC.
19h30.
Voilà, dans un gymnase.
Jusqu'à quelle heure?
Donc ça fait jusqu'à 19h30 jusqu'à 21h. Donc
jusqu'à 21h, bon, c'est raisonnable.
Ils font du coup 18h, 21h.
Et,
voilà.
et en fait, bon, voilà, c'est parce que c'est des jeunes. À MBM, on est dans une formation qui n'est pas encore au niveau du SMUC et on a certains joueurs qui ont besoin de passer par cette étape-là. Ouais. Avant de pouvoir performer à un niveau plus élevé.
Voilà, ça leur permet du coup de faire une transition parce que c'est beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs qui sont MBM et qui sont dans la transition sont des joueurs qui viennent des Antilles. Donc du coup, c'est pour s'adapter un peu au basket à la française, on dira.
Bon,
donc,
c'est
ils
différent.
Ont un niveau technique.
C'est... Mais le basket
encore,
des Antilles.
Il y a beaucoup de talent,
mais c'est pas trop le même basket. Donc du coup, ça leur permet.
C'est important de le rappeler.
Ça leur permet du coup de s'adapter au nouveau style de jeu qui est imposé ici. Donc du coup, ils ont le talent physique, mais c'est juste tout ce qui est technique, vision de jeu.
Donc il faut y revoir quelques bases.
Comme ça, Michael Pietrus, enfin, ça va en termes de renommée de.
Oui,
et d'éclairage, c'est magnifique.
Effectivement, Michael Pietrus.
C'est lui le créateur, on le rappelle.
C'est le parrain, le parrain.
Enfin, le parrain. Mais bon, celui qui a donné plus ou moins l'idée.
Il est aussi impliqué dans le SMUC.
Oui,
et il est président de MBM. Donc,
et il a une carrière, on rappelle, phénoménale, notamment en équipe de France, quand même, de
équipe,
basket.
Équipe de France et 11 ans en NBA. Donc, on est quand même suivi par quelqu'un qui a fait
qui a du bagage, ouais, voilà, qui a de l'expérience, et bien sûr
qui a fait un parcours prestigieux. Et si vous voulez, pour revenir à ce qu'on disait sur le rythme, oui, donc les journées type, elles s'enchaînent. Le mercredi, les entraînements sont plus tôt, comme ils n'ont pas cours l'après-midi, ils s'entraînent l'après-midi. Et ce qui a été intéressant, nous, avec la création d'MBM, on a réussi à mettre en valeur des joueurs qui n'étaient vraiment pas prêts et qui aujourd'hui sont des joueurs titulaires en championnat de France, c'est-à-dire le plus haut niveau U18.
Vous formez des champions, alors, ou de futurs champions.
Exactement. On espère.
On est d'accord. On espère.
Bien sûr.
C'est ça.
Et pour être honnête, bon, on a créé le club. La dynamique, elle a pris. Au départ, avec Mathilde, bon, ben, on a inscrit l'équipe en championnat. Et vous savez, quand il y a une bonne dynamique, une mayonnaise qui prend, des fois les choses vous dépassent même. Alors nous, on s'investit, mais on doit rendre hommage aux jeunes qui sont dans ces équipes.
C'est eux qui font le plus gros du travail, parce que on est d'accord.
À leurs parents. Et je ne sais pas si ça s'est souvent produit qu'une équipe qui s'inscrit en championnat pour la première année gagne le championnat, et c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Et ça a donné un élan. Et c'est pour ça que dès la saison qui arrive, ben Mathilde va commencer à s'atteler pour avoir de nouvelles sections et faire...
Donc Mathilde fait du bon travail, c'est oui, ça. Du très bon travail,
exactement,
il faut le dire.
Exactement, ouais, exactement.
On a parlé, alors c'est 25 jeunes, ils ont un statut spécial encore dans les établissements où ils sont. C'est-à-dire finalement, ils sont pas comme les autres, puisqu'ils ont un rythme de fonctionnement au niveau scolaire différent.
Alors,
comment ça se passe alors?
Pas tout à fait, parce que bon, vous savez, le système scolaire,
il est rigide.
Il est assez rigide. Dans l'établissement, ils sont identifiés, le staff de l'établissement sait.
Ils savent que ces personnes-là sont un peu particulières.
Et en début d'année, on essaie de faire en sorte qu'ils aient des emplois du temps. On va pas dire aménagés, mais...
Adaptés.
Plus malléable.
Plus favorable.
Voilà, parce que c'est pas aménagé, parce qu'il est dur sur l'emploi du temps. Voilà. Mais il est adapté à leur situation.
Et ceux qui sont post-bac à l'université, ils bénéficient du statut haut niveau universitaire. Et ils ont aussi l'opportunité de jouer dans le championnat universitaire. Et ce statut leur permet d'avoir... Des aménagements, des fois ils peuvent avoir durant les périodes d'examen des dates qui peuvent être déplacées, aménagées en fonction de leur
contrat. Le statut est quand même particulier.
Savoir qu'ils ont aussi, du coup, il n'a pas mentionné un staff médical qui les suit.
Oui, parce que c'est des sportifs de haut niveau, voilà. Donc il faut qu'ils soient en bonne forme.
On est aussi en partenariat avec un kiné, un médecin, on a les contacts. Dès qu'il y en a un blessé,
ils sont bien suivis à ce niveau sanitaire, santé.
Voilà, on fait en sorte de trouver les rendez-vous médicaux. S'il faut une IRM, il faut une radio, on appelle le médecin, on fait en sorte que ce soit pris en charge.
Ils ont tout ce qu'il faut, exactement.
Dans les jours qui suivent. Donc, on essaye vraiment de leur inculquer cette rigueur, que ce soit au niveau sportif, scolaire.
Et santé aussi.
Au niveau de la santé, pour qu'ils apprennent.
Alimentation, etc.
Surtout à cet âge-là,
bien sûr.
C'est compliqué au niveau de l'alimentation, qu'on leur dit de s'étirer. Oui, mais j'ai 15 ans, pas besoin de m'étirer. Non, tous les sportifs s'étirent.
Mathilde est là pour surveiller.
Ah, tout à fait, complètement.
C'est le but. Alors,
c'est ça.
On revient. Bon, ces 25 jeunes, vous allez sectionner par un entretien, leurs résultats scolaires, leur conduite, etc. On a vu. Est-ce qu'il y a, au niveau financier, est-ce qu'il faut qu'ils apportent un budget? Quel est ce budget? Parce que bon, c'est important d'en parler aussi, on est d'accord.
Alors, au niveau du budget, comme on l'expliquait plus tôt, c'est très très personnalisé. Parce que vous savez, la plupart des structures, vous allez par exemple dans un centre de formation qui est dans une petite ville, il y a un jeune qui veut faire une formation particulière, on va lui dire non, si tu veux entrer au centre de formation, nous on a un partenariat avec cette école là donc tu vas faire ça ou ça. Et beaucoup de jeunes, comme ils ont très envie de continuer leur parcours sportif, ils acceptent souvent de faire des études qui finalement ne les intéressent pas,
tout simplement pour faire le parcours, c'est ça.
Et il faut qu'on soit honnête, c'est une infime minorité qui devient pro. Donc si le scénario le plus probable se réalise, le gamin, il n'est pas pro.
Il a perdu sur les deux côtés, c'est ça. Et au niveau sportif et au niveau scolaire, il a perdu aussi parce qu'il avait quelque chose qui l'intéressait pas.
Voilà. Dans le meilleur des cas, il va sortir avec un diplôme qui ne l'intéresse pas. Et assez souvent, ils sortent sans diplôme et en même temps, ils ne sont pas pro. Donc nous, la réflexion, elle est différente. C'est-à-dire qu'on part du jeune. On est quand même à Marseille, qui est une très grande ville. Donc, pratiquement toutes les filières possibles existent ici.
Oui, ça, c'est sûr.
Et en fonction de ce que veulent faire ces jeunes, on va se rapprocher. Bon, on a des établissements dédiés, mais il est arrivé qu'on ait un jeune qui nous demande une filière très particulière.
Vous faites en sorte qu'il obtienne cette filière, c'est
voilà,
ça c'est
ce que voilà.
Je crois comprendre.
Et on le met dans cette filière-là. Après, bon, il faut qu'on fasse coïncider la logistique, les emplois du temps, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que plus on ne peut pas parler de tarifs comme ça à l'antenne.
Est-ce que c'est un tarif à la carte alors quoi, je ne sais pas, ou à la personnalisée.
C'est
un tarif personnalisé, il faut le dire si c'est ça.
Ouais. C'est assez personnalisé, parce qu'on a des jeunes, bon, pas mal qui sont à l'internat, il y en a d'autres qui sont dans la structure qui ne sont plus à l'internat, il y en a qui sont suffisamment grands, on les a suivis au lycée.
C'est à partir de quel âge, justement, alors on parle d'âge là.
Le plus jeune qu'on a eu, il était en 5e.
Cinquième, c'est quel âge maintenant,
donc, 5e. Je crois que c'est 12 ans.
À partir de 12 ans, donc on peut rentrer dans cette structure, faire partie.
C'est à partir de 12 ans. Voilà. Et le plus, 12 ans.
Et lui, en l'occurrence, par exemple, à cet âge-là, tu es en famille d'accueil. Il y en a d'autres qui sont en internat. Il y en a d'autres qui sont post-bac, qui sont sur des logements universitaires. On en a d'autres qui, ils ont évolué, maintenant ils ont leur propre logement et on les accompagne différemment. Donc c'est pour ça que je tiens à préciser que c'est relativement personnalisé. Et les gens qui sont intéressés, on va laisser effectivement les contacts.
Oui, exactement. Oui. Et vous allez les rappeler d'ailleurs l'antenne même aussi.
Voilà.
Vous êtes au micro là.
Alors, ils peuvent aller sur...
Alors vous avez un site certainement, déjà.
Marseille Athlète Campus... .com.
À partir de 12 ans.
Et voilà.
On est d'accord, c'est ça. Un jeune de 12 ans nous écoute, il se dit ça m'emballe et il vous contacte.
Voilà.
Exactement. Et on a aussi, l'Instagram du club qui est Marseille Basketball Métropole. Donc c'est MBM-18-13000 sur Instagram.
Sur Instagram aussi,
donc,
voilà.
Et l'adresse du MAC, c'est contact@marseilleathlete au pluriel. campus.com.
Alors 25 places, est-ce qu'il y a des places pour la rentrée? Ça marche par les rentrées scolaires?
Est-ce
que c'est déjà ouvert le recrutement? Comment ça se passe?
Oui, nous commençons le recrutement dès la mi-mai.
Donc c'est proche alors, c'est ça?
Donc oui, même avant on peut commencer.
Donc maintenant, si un jeune nous écoute et serait intéressé, ils vont sur Instagram ou sur votre site. Ils vous contactent.
Et
ils
après,
disent,
on peut commencer, du coup, l'évaluation.
Ils postulent et après...
C'est ça.
Exactement, puisque y a des jeunes qui peuvent passer, faire une, deux séances sur un entraînement.
Sur MBM, et après, du coup, on évalue. Donc, on peut commencer le plus tôt possible.
Le plus tôt possible. Garçon-fille,
garçon,
bien sûr.
Fille.
Parce qu'il manque des filles, on l'a dit. Il n'y a pas de filles.
MVM.
Voilà.
Donc l'année prochaine, on prend des U13. Donc
voilà. Venez en masse.
11-12 ans, s'il vous plaît.
Venez en masse.
C'est
oui.
Ça.
Et on tient quand même aussi à signaler que, effectivement, par les contacts, le réseau qu'on a, on est souvent en mesure de proposer des expériences assez particulière. Donc récemment, vous savez, il y avait les deux matchs NBA à Paris.
C'était le gros spectacle, ça, c'est sûr.
Ben on a.
Est-ce que vous avez eu des places pour vos 25 participants?
On a pu monter un package avec la NBA.
C'est super ça.
On a 10 jeunes qui sont venus à Paris et ils ont en parallèle du match, enfin des matchs NBA qu'il y avait. Il y avait un camp de basket dirigé par des coachs NBA. Et ces 10 jeunes ont pu participer à ce camp avec...
Voir tout ce qui se passait, l'entraînement...
C'était bien 10 jeunes, la région...
C'était le paradis pour eux, c'est ça.
Ils étaient émerveillés.
Ils ont représenté la région, puisque les gens qui étaient là, les autres participants, c'était beaucoup d'étrangers qui venaient de Lituanie, de Dubaï,
Qatar.
Du Portugal, d'Allemagne... Et en dehors du basket, c'était une expérience humaine très intéressante pour eux. Ils ont aussi assisté au match NBA San Antonio Spurs, Indiana Pacers.
Avec Wemby, évidemment.
Et voilà, évidemment.
Le phénomène, on ne peut pas l'occulter.
C'était impressionnant.
Vous allez, vous allez l'inviter à Marseille, non?
L'émission touche à sa fin. Je suis désolé.
Non, on est, a dépassé 10 minutes,
mais il y avait matière à dépasser. Alors, sachez évidemment qu'en plus, on a eu de très bons relais, donc on en est ravis. Raoul et Mathilde, vous êtes les bienvenus. Nous, on s'engage à Radio Galère à vous accueillir 3-4 fois par an. On peut faire, allez, on part sur 3 répétitions par an. Ça nous permet de faire le point à des lieux, ou en tout cas à un contexte stratégique, hein, notamment voilà, l'hiver, l'été, le printemps, enfin bref. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu. Je remercie encore Barbara qui a fait le trait d'union entre nous. On est désolé parce que les auditeurs et mon réseau là, auraient aimé réagir à l'antenne, mais on le rappelle, la ligne n'est pas disponible. On a changé de table de mixage, c'est aussi ça, les rouages, les tenants, les aboutissants d'une radio associative. Alors on a l'avantage d'avoir un nouveau matériel qui fonctionne très bien, mais on a encore quelques réglages à faire.
On est capté sur le monde entier, même aux États-Unis. Sur
même aux États-Unis, si vous tapez www.radiogalère.org, vous avez le live en direct et vous écoutez ce matin Marseille Athlète Campus qui était avec nous sur les ondes de Radio Galère.
Qui recrutent pour la rentrée, on le
exactement.
Rappelle. Donc il faut postuler. Et les filles venaient en masse.
On attend les filles.
Génial, avec grand plaisir. Et vous reviendrez, en tout cas, nous en parler avec les partenaires. On pourra même inviter Johan aussi du SMUC pour parler de toute cette énergie, parce qu'il y a une vraie synergie qui fonctionne. Et là où je trouve que c'est extrêmement pertinent, c'est que la palette est large. Exactement. Et surtout, elle englobe différents sports. Voilà, on n'est pas là en train de parler du foot. Je suis issu du foot, donc je suis un passionné, certes.
Ouais, à Marseille,
on a d'autres sports
qui
fonctionnent très bien. Non, mais c'est important de le rappeler.
Non, mais c'est important parce que on pense Marseille, on pense foot,
exactement,
OM.
Mais il n'y a pas que ça.
On va penser basket maintenant pour Marseille.
Mais sachez qu'il y a de plus en plus de jeunes talents marseillais qui évoluent au très haut niveau dans des clubs pro en France,
tout à fait,
dans des équipes de France U20, U18, U16.
Ouais, ouais. Et il n'y a pas que l'ASVEL ou Monaco qui fonctionne très bien, il y a d'autres clubs évidemment.
On a eu un champion du monde 3-3 avec l'équipe de France, un champion d'Europe U20.
Je me suis régalé d'ailleurs au 3-3 au JO.
Voilà,
c'était génial.
Donc il y a vraiment un gros potentiel basket ici et
parfait.
C'est le travail qu'on est en train de faire.
Merci.
Super.
Merci
pause
beaucoup,
musicale, merci beaucoup, plaisir de vous revoir en tout cas sur les ondes de Radio Galère. Tout de suite, pause musicale avec Sian O'Connor, Nothing Compared to You, et juste après Economicus d'Economicus avec Fabrice Aubert et Dany Bruet, et des annonces, de très très lourdes annonces sur les ondes du 88.4. Merci,
merci
Raoul,
à
merci
bientôt,
Mathieu,
alors.
Merci. Au plaisir, au revoir.
Merci.
Ça va, ça a été. We'll be right back.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité centrale et à Economicus d'Economicus sur les ondes de Radio Galère. Merci Christian pour ce choix musical, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Voilà, tu as fait un heureux.
Rien ne peut te comparer, on ne peut pas se comparer à toi, Anthony, c'est ça. C'est
pour ça que j'ai mis. On peut, je te rassure.
C'est un hommage que je t'ai fait.
C'est adorable, mon ami Christian, t'es un amour. Vous êtes toujours en direct sur les ondes du 88.4 de la bande FM, du www.radiogala.org. Et je le répète, le standard n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas réagir à l'antenne. On va parler d'un dossier central avec Fabrice Aubert qui est à nos côtés, Dany Bruet également. On va parler de l'Ukraine, notamment de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Voilà, on va dépasser les 3 ans dans quelques jours. Et Fabrice a fait un travail encore remarquable, astronomique, pertinent, avec beaucoup, beaucoup de profondeur dans ses analyses. On va parler de propagande, de réalité des États-Unis, de Poutine, de l'Ukraine, de la démagogie. Il y a beaucoup de choses
Musk
à dire. Et c'est évidemment extrêmement intéressant.
Pas de Musk, il a dit.
pas d'Elon Musk de la part de Fabrice Aubert. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous. Et bonjour, Dany.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir. Moi, je suis extrêmement... Je tiens à le dire parce que c'est aussi ça, Radio Galère, c'est la transparence totale. Je suis extrêmement ému parce que Dany va nous annoncer quelque chose. Et en tout cas, pour faire court, il ne sera plus des nôtres prochainement. Et nous, sache que je vais te laisser t'exprimer. On va réduire un petit peu le volet de Fabrice aujourd'hui exceptionnellement. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'avoir, notamment dans ton engagement, dans ta pertinence, dans ton élan, dans ton affection, dans ton soutien, dans ton partage. Tu as toujours été adorable et un amour, en tout cas, à tes côtés. On va pas te, comme dirait l'autre, te manger le cerveau, comme on dit à Marseille, pour te retenir. Tu as fait ce choix-là, et c'est un choix totalement libre.
Et que nous respectons, donc,
du coup. Nous respectons totalement. Nous en sommes désolés, mais nous le respectons. Et ça n'empêchera pas de se voir à temps et autres. Évidemment, je sais que tu restes un militant malgré tout. Et sur cette dernière transition, je te laisse nous éclairer et nous faire cette annonce. Mon cher Dany Bruet.
Oui, ben, j'avais l'habitude de commencer l'émission par faire des annonces. Donc aujourd'hui encore, je vais faire deux annonces. Et la première est que je peux annoncer avec certitude la victoire de l'extrême droite aux prochaines élections en France, c'est-à-dire aux élections municipales, présidentielles et législatives.
On espère que ce sera démenti.
Avec regret, évidemment, on le rappelle. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Dany, ça serait quand même étonnant, mais c'est évidemment avec regret. Hein.
Alors je m'appuie sur quoi ? Ben, tout simplement par la démonstration suivante, c'est quand l'homme le plus riche de la planète fait des saluts nazis, quand il intervient dans un congrès de l'AFD, qui est pire que l'extrême droite, enfin pire que le RN en France, pour leur dire que ce parti est une chance pour l'Allemagne, quand il envoie un mail à 1 200 000 fonctionnaires pour les inciter à démissionner, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, pour construire la résistance, vous organisez une tournée de 12 rencontres avec l'un des intellectuels les plus brillants et les plus combatifs, et que celui-ci, sauf exception, s'exprime devant un public quasiment absent. Alors là, vous savez que la sidération et la résignation ont gagné et que rien ne pourra changer le cours de l'histoire. Pire que le bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles. Et on arrive à ma deuxième annonce. Puisque toute initiative est devenue inutile, j'ai décidé de mettre un terme à toutes mes actions militantes. Bien sûr, pour l'honneur, je participerai à l'excitation du prochain et totalement inutile barrage républicain. En ce qui me concerne, je n'ai rien à craindre de l'extrême droite. Je ne suis pas noir, je ne suis pas arabe, pas migrant, pas assisté, pas femme, pas intellectuel, pas journaliste, pas avocat, pas magistrat, pas animateur culturel, pas responsable associatif. J'ai des revenus confortables. La seule chose que l'extrême droite pourra me reprocher, c'est de ne pas être raciste. Mais s'il le faut, je pourrai très vite haïr mon voisin qui est italien.
Je suis désolé, mais c'est tellement bien écrit et le second degré, il est extrêmement implacable. Et il fait même sourire, Dany.
Alors vous l'avez compris, c'est ma dernière émission à Radio Galère et j'en profite pour vous adresser toute mon affection et toute ma gratitude. Votre qualité d'accueil m'a toujours beaucoup touché. Bonne route les amis dans un pays bientôt fasciste.
Sache qu'on est également touché, mon cher Dany, ouais. Lorsque tu me l'as annoncé quelques minutes avant l'émission, j'ai été aussi extrêmement impacté parce qu'on en parle peu sur les ondes de Galère, on fait des émissions, mais il se passe beaucoup de choses sur le plan humain, sur le plan de l'échange, et au-delà parfois des trames et des dossiers qu'on aborde, des fois on a même des problèmes perso, et ces personnes-là que vous côtoyez pas au quotidien, hein, je parle de Dany, Fabrice, ben ils sont là pour vous demander de vos nouvelles. Quand Richard n'est pas là, on me dit où il est, où Richard, quand Chris, enfin voilà, il y a beaucoup d'affection et de complicité. Ça fait plus de 4 ans qu'on fait des émissions, ça fait plus de 5, 6, 7 ans qu'on se connaît, Dany, si c'est pas plus d'ailleurs, en tout cas qu'on se côtoie au moins depuis 5 ans, et c'est extrêmement touchant, extrêmement poignant, et nous on peut que respecter ton choix.
Respecter et regretter ce choix aussi quand même.
Oui, et je te laisse un peu la parole, Christian, pour un petit mot sur notre Dany. Ouais.
Oui, bon, on respecte ton choix évidemment, mais on regrette aussi peut-être, moi je regrette que tu je dis ça entre guillemets, que tu baisses les bras et que tu avoues que finalement il n'a plus rien à faire. Quand on a cette vision d'abdication, de dire qu'il n'y a plus rien à faire, à mon avis, c'est toujours grave et triste, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire, il y a des gens, comme tu l'as dit, qui vont adhérer à toutes ces idées d'extrême droite, avec la propagande, etc. Mais il y a d'autres gens dont on parle beaucoup moins, qui ne font pas la une des médias, etc., mais qui font un travail très, très positif et qui seront là pour contrecarrer ces idées, ces nauséabondes qui sont répandues par ces extrêmes, comme tu viens de le dire. Donc moi, je t'incite, je sais que bon, je ne vais pas te faire revenir sur ton annonce et sur ton choix.
Et ça sera peine perdue dans
tous
les cas.
Ça sera peine perdue, mais je t'incite de réfléchir, de cogiter et de voir autour de toi qu'il y a des gens qui ont un autre regard, qui ont un autre esprit, qui ont une autre volonté et qui n'agissent pas comme les gens que tu viens de présenter, là, qui suivent ces mouvements extrémistes et... En plus, c'est quelque chose qui est tout à fait rétrograde. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans les années 30. Ça se remet un petit peu au devant de la scène, mais c'est quelque chose qui ne tiendra pas parce que c'est passéiste complètement, malgré tout. C'est ce qu'il faut voir. Ça, c'est qu'il y a une force montante de gens positifs qui sont tout autour de la planète et qui peuvent faire changer les choses. Moi, je te conseille de changer de lunettes. C'est peut-être parce que tu regardes trop, justement... avec des lunettes négatives le monde, et du coup ça touche ton moral, ça touche ton esprit. Prends une autre paire de lunettes, regarde les choses positives dans le monde, et il y en a plein, et ça va peut-être te redonner espoir à l'humanité et à l'homme. Voilà, peut-être, j'espère que tu reviendras dans quelques jours, peut-être sur cette annonce, mais moi je te conseille de revenir là-dessus, de ne pas baisser les bras. C'est tout ce que j'ai à dire.
Dany,
merci Christian.
Merci à toi. Merci à toi, Dany. Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de toi...
Tout ce que tu vas faire. Moi, je ne le mets pas au passé, Dany. Je le mets tout ce que tu as fait, tout ce que tu peux faire et tout ce que tu vas faire encore.
Ah ben, voilà. C'est surtout qu'il a déjà fait beaucoup et il fait beaucoup encore.
Il fera encore beaucoup parce que, comme il a dit, il y a beaucoup à faire, justement.
Oui, non, mais après, on peut comprendre aussi la frustration. Il parlait de Gérard Mondilla, 12 rencontres avec... oui, je t'en prie, on va forcément un petit peu écourter alors que tu as fait un travail remarquable, mais c'est pas grave, Fabrice. On y reviendra par la suite et tu vas quand même démarrer.
On va démarrer, Fabrice.
Mais ton mot à dire parce que c'est ton acolyte. Hein. Et puis, rappelez-vous, les rencontres d'économistes, elles ont démarré il y a plus de 10, 15 ans maintenant. Donc, Fabrice était déjà là.
2012.
Voilà, c'est ça, oui. Fabrice Aubert.
Non, mais je... Dany, ça fait tellement de temps qu'on se connaît ensemble qu'on peut dire qu'on a milité ensemble pendant des années. Je pense qu'on s'est entraidé le plus possible. Alors moi, je respecte sa décision parce que de toute façon, son texte, il est authentique et il correspond à la réalité des choses.
Une certaine réalité des
non,
choses.
Non, la réalité.
Pour
après,
toi, c'est la réalité. Pour moi, c'est une certaine réalité.
Ah, et je vais dire pourquoi je dis c'est le réel. C'est que, si tu veux, nous, les militants, on est un peu comme les Indiens contre les cow-boys. On a des arcs et des flèches en bois et en face... Ils ont des bazookas et des canons métalliques. Donc, si tu veux, c'est extrêmement difficile, quand tu es militant, de pouvoir résister à tout ça. Et quand tu vois qu'en plus, tu n'es pas suivi par ceux qui sont les victimes premières de tout ce martèlement et ce bombardement, en plus accompagné de manière médiatique,
oui.
Ça devient... extrêmement difficile. Marx a une phrase là-dessus. Et c'est là où je te rejoins sur un point, c'est de dire que Marx dit « on ne fait pas bouillir les marmites de l'histoire ». Et ça, c'est aussi historique. C'est-à-dire, il dit « il y a des conditions matérielles qui vont générer des conditions sociales et politiques qui vont engendrer un processus révolutionnaire ». Mais c'est pas la révolution. Et la situation actuelle, enfin, quand tu vois Trump qui t'annonce ce matin qu'il veut faire la Côte d'Azur à Gaza, c'est encore une bombe. Mais dis-toi que c'est pas le projet de Trump au départ. C'est le projet de Netanyahou. Simplement, Netanyahou peut pas imposer son projet, donc il va passer par les États-Unis. Par contre, Netanyahou a préparé le terrain, si je puis dire, en rasant complètement Gaza et en tuant le nombre de gens qu'il faut.
On y reviendra en effet, Fabrice, mais évidemment, la nouvelle de Dany nous bouscule beaucoup et on est en tout cas de tout cœur avec toi aussi dans cette déception immense que tu as. Parce que il faut quand même le rappeler. Fabrice, je t'en prie, on a 20 minutes.
Fabrice, voilà. L'Ukraine, alors.
Voilà,
Trois ans d'Ukraine.
Voilà. Alors, je vous rappelle que depuis le début de cette guerre, chaque mois de février, c'est-à-dire au moment où ça s'est enclenché, on a fait une émission là-dessus.
Tout à fait.
Parce que j'ai jamais voulu lâcher sur. Et aujourd'hui, je parle comme militant de la paix. C'est-à-dire, moi, je suis pas pour la guerre. Je suis un militant de la paix. Mais tu comprends, être militant de la paix, ça veut pas dire sauter sur son fauteuil comme un cabri en disant la paix, la paix, la paix. Pour construire la paix, pour être un militant de la paix, il faut comprendre pourquoi il y a eu la guerre. Si on ne plonge pas dans les abysses du pourquoi, on reste à la superficie des choses.
Alors pourquoi il y a eu la guerre ?
Alors, il faut se rappeler au début, je vous rappelle que ce sont les États-Unis de Biden qui ont alerté le monde entier sur le fait que la guerre allait avoir lieu. Et moi, je considérais que... Je vais te dire, je me suis planté. Je considérais que c'était de l'idéologie, de la propagande, et que jamais Poutine ne ferait la guerre et ne rentrerait en Ukraine. Je me suis planté. J'ai mis 3 mois à comprendre.
C'est plutôt rare.
Non, mais
que tu te plantes.
Non, mais pourquoi ? Parce que dans ma tête, Poutine est quelqu'un qui est un joueur d'échecs. Il pratique le judo. C'est quelqu'un de froid, contrairement à tout et. Alors, à la limite, tu peux dire, c'est quelqu'un de froid comme une lame de couteau. C'est-à-dire, il a un raisonnement. Il a un raisonnement politique. Et pour moi, vu ce qu'était la Russie à l'époque, comment elle se redéveloppait, qu'elle avait réussi à construire Nord Stream par les échanges économiques avec l'Allemagne, elle était en redéveloppement. Ça, c'est incontestable. Et donc, il n'avait pas, si tu veux, d'intérêt particulier à rentrer en guerre et notamment à rentrer en Ukraine. D'accord ? Et donc, il m'a fallu 3 mois pour comprendre. Mais la cause de la guerre, il y en a 4. Hein, je vous l'ai dit, je vous les brosse très vite. C'est pétrole, gaz, dollar, volonté des États-Unis de Biden, que l'Empire ne soit pas remis en cause. Or, le problème, c'est que la Russie de Poutine, je précise la Russie de Poutine, pas la Russie d'Eltsine. Eltsine était un allié objectif des États-Unis et un buveur de vodka. Donc, il a massacré le pays. C'est lui qui a fait ce qu'on appelle les oligarques. Les vrais oligarques russes, c'est lui qui les a fait. Il a privatisé l'économie à tout va et la Russie était en destruction. Il y a des tableaux démographiques qui montrent la chute de la population russe et la chute de sa démographie. Il y avait de l'alcool partout, de la drogue partout. Bon,
et du banditisme partout.
Et
aussi.
Du banditisme, absolument. Il faut le rappeler, hein. Et du banditisme,
c'était
d'ailleurs.
C'était la loi des mafias.
C'était la loi des mafias. C'est toi qui le dis, je suis entièrement d'accord. Et en fait, Poutine, quoi qu'on en pense, je veux dire, je suis pas son ami, hein, et c'est pas un ami politique. Mais Poutine, contrairement à tout ce qu'il racontait dans les médias, parce que c'est ça que je dénonce, Poutine, il est pas seul. Il a mis en place des équipes, notamment au niveau de sa banque centrale, au niveau économique, au niveau Serge Lavrov, qu'on prend pour un con, mais c'est un des plus puissants ministres des Affaires étrangères au monde. Et il est écouté dans le monde entier. Parce que lui, il dit les choses que fait la Russie. D'accord ? Hein, quand la Russie a alerté qu'ils avaient des missiles particuliers qui pouvaient péter sans dynamite à l'intérieur... ça s'est concrétisé, ça a été Oshnik. Bon, et on a vu la dévastation que ça pouvait faire. Donc, si tu veux, la différence entre l'Occident, qui est plein de paroles, mais qui fait jamais rien, et la Russie de Poutine, qui est une autre histoire, une autre culture, liée d'ailleurs à sa géographie, sa position, ses 11 fuseaux horaires, etc., etc., c'est le plus grand pays au monde, avec 13 religions à l'intérieur. 12 républiques, un nombre d'oblasts, de grandes régions, et des républiques autonomes, parce que ça on le sait pas, mais la Russie est constituée de 12 républiques autonomes.
C'est une fédération.
C'est une fédération.
Voilà, c'est une fédération.
Et Poutine,
parce que c'est l'URSS, évidemment.
Faut le dire, est soutenue aujourd'hui, et les sondages ont été faits par les Occidentaux, par 85% de sa population.
Alors là, je t'arrête parce que les sondages dans ce pays-là...
Non, Occidentaux.
Ah, soutenu par 80% des Occidentaux.
Non, alors quoi, des Russes. 85% des Russes, à l'heure actuelle, soutiennent Poutine.
Qui c'est qui dit ça?
Mais les médias occidentaux.
Non, vérifie. Je peux pas adhérer à ce constat parce que...
Mais tu sais pourquoi?
Rien n'est fiable.
C'est simple.
L'information n'est pas fiable dans ce pays.
Je te parle pas des élections, je te parle des sondages.
Même les sondages, c'est des informations.
Il parle des sondages occidentaux. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais c'est les sondages occidentaux.
Mais pourquoi? Pas parce qu'ils aiment Poutine. Et parce que Poutine a redressé la situation sociale, économique, démographique des Russes. C'est tout. Et ça se voit sur les graphiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le salaire moyen en Russie progresse de 25%. Parce qu'on te dénonce l'inflation qui est à 10%, mais le salaire moyen en Russie augmente de 25%. Il n'y a pas de chômage. Et il y a une industrialisation qui est de masse. Qui fait d'ailleurs... que la raison pour laquelle les États-Unis se prennent une raclée au niveau militaire, c'est pas leur système technique. Et c'est là où ça renvoie, parce que je le dis dans mes papiers, ça renvoie à la guerre du Vietnam. Pourquoi les Américains ont perdu la guerre du Vietnam? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, il y avait un mouvement de libération au Vietnam, hein, alors mené par les communistes, mais il y avait un mouvement de libération contre la colonisation. Au début, contre les Français, ça a été Diem Dinh Phu. Et un certain Le Pen, bon, qui a pratiqué la torture. Et puis, après, ça a été les Américains. Et les Américains sont arrivés avec leur technologie. Comme aujourd'hui en Ukraine. Or, il faut savoir que leurs fusils mitrailleurs étaient plus performants que les Kalachnikovs rudimentaires, mais réparables dans la jungle, à coups d'élastique. Tandis que les fusils, dont j'ai plus le nom, les fusils américains, étaient très technologiques, mais dans la jungle, s'enrayaient tout le temps. Ouais. Et donc, cette supériorité technologique sur la réalité matérielle du terrain, c'est péter les dents.
Il y a aussi le mouvement de contestation aux États-Unis.
Absolument.
Des étudiants et de la population qui a fait aussi fléchir le gouvernement américain. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Ce qui n'est pas en Russie pour le moment, où il y a le mouvement de population qui voudrait se manifester contre la guerre et certainement contrôler, maîtriser, sinon réprimer.
Non, tu as 15% de la population qui contre la guerre et la manière dont Poutine fait.
15%.
Si, non, c'est... 15%, c'est les sondages.
D'accord, mais ces sondages-là, à mon avis, pour moi, je n'y adhère pas parce qu'on ne peut pas avoir des sondages honnêtes dans un pays totalitaire.
Vérifie.
On aura l'occasion de vérifier, mais tu as le droit d'avoir cette liberté-là. Après, on revient, Fabrice, sur l'horreur de la guerre en Ukraine et notamment l'horreur de la propagande occidentale. Il 9h10 voilà. Sur les ondes de Radio Galère.
Je vous rappelle quand même qu'au début de la guerre, on a traité Poutine de fou. Ce qui expliquerait son offensive en Ukraine. Puis on a dit qu'il était malade, qu'il avait 10 cancers, que sa main tremblait. Trois ans après, il est toujours là, il a l'air en bonne santé, il fait toujours du judo, il fait du cheval. Bon, voilà. Hein. Et puis alors, là j'en viens à un truc, parce que à un moment donné, les médias, ça devient insupportable. Hein. Il y a eu cette annonce sur LCI, Octobre Rouge, c'était octobre de l'an dernier. Octobre rouge pour l'armée russe, 1500 soldats touchés par jour. Alors vous faites le compte. 1500 que multiplie 30 jours, que multiplie 12 mois, ça fait 540 000 soldats en moins par an, que multiplie 2, et j'avais calculé sur 2 ans au moment où j'ai écrit le papier, ça fait 1 800 000 soldats en moins. Alors fais les comptes. Les Russes, ils sont partis au début avec 350 000 militaires. Puis ça a été porté à 500 000, et puis 1 million. Il aurait fallu deux armées russes, dans le cas d'une démographie qui n'est pas... Parce que la Russie, c'est 170 millions d'habitants, mais leur taux de natalité est assez bas. Et si tu veux, le plus gros problème de la Russie de Poutine aujourd'hui, c'est la démographie. C'est
comme,
ça, son plus gros
problème.
Comme
tous les pays occidentaux. Enfin, comme les autres pays occidentaux.
Oui. Et à côté de ça, par contre, et ça, les occidentaux... Les médias occidentaux le reconnaissent. Pour un obus ukrainien tiré, il y en a 10 qui sont tirés. Et là, je conseille fortement
la lecture. Plus la domination aérienne. Hein.
Voilà, mais je vais venir. Sans compter la manière qu'ont les Russes de faire la guerre.
Et tu peux rappeler le bouquin, hein, il est intéressant.
Jacques Beau, l'art de la guerre russe. Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. Et tu apprends que comme les Russes n'ont pas beaucoup de soldats, contrairement à ce qu'on dit, ils sont économes de leurs hommes. Comment ils font ? Ben, ils cassent tout. Mais d'ailleurs, on l'a vu à Bakhmout, on nous a montré les images. Chaque village qu'ils essayent de conquérir, c'est d'abord des bombes de partout, avec les bombes volantes. Alors, t'imagines, c'est des cons, les Russes. Hein. Ils ont pris leurs anciennes bombes d'il y a 20 ou 30 ans, ils ont mis dessus des ailettes, un GPS, c'est transporté par avion jusqu'au niveau de la frontière, c'est lâché, la bombe est planante, elle est guidée par GPS sur les lignes ukrainiennes. Et c'est des bombes de 500 kilos à 1000 kilos. Donc et d'ailleurs, les Ukrainiens les craignent comme la peste, puisque plus c'est guidé. Et ils sont partis d'un vieux matériel. Tu vois, comme c'est des cons. Hein. Le problème, c'est que quand tu étudies la Russie sortie des lunettes de l'Occident, tu apprends que le nombre d'ingénieurs pour 1000 habitants est supérieur en Russie qu'aux États-Unis. La guerre des drones, c'est eux qui sont en train de la gagner. Parce qu'ils ont des jeunes techniciens formés dans les universités de Moscou et d'ailleurs, qui sont des experts dans ces matériaux. Et la guerre des drones joue énormément dans cette guerre. Donc si tu veux, quand tu tires le fil des informations occidentales, tu te rends compte que c'est du mensonge permanent. Donc il faut s'en sortir. Après, on a dit, la Russie de Poutine ne veut pas s'arrêter aux frontières de l'Ukraine. Ils veulent faire la guerre aux Européens. Alors là, mais c'est facile à montrer que c'est faux. En vous envoyant les papiers, je vous ai montré les graphiques. Comme il a un problème démographique. Je veux dire, mener une guerre, c'est certes du matériel, mais il faut des hommes, il faut des soldats. Or, il n'a pas la population suffisante en rapport à la population occidentale et de l'OTAN pour mener une guerre contre l'Europe. Tu comprends? C'est pas du sentiment.
Peut-être
là.
Pas contre l'Europe, mais peut-être certains pays d'Europe.
Non, mais c'est pas possible, puisqu'ils sont tous à l'OTAN maintenant. Tous. La Suède, la Norvège, la Finlande, ils y ont tous été.
Oui, les pays scandinaves.
Donc, or, tu as l'article 5 de l'OTAN qui stipule que chaque pays de l'OTAN attaqué vaut pour tous les pays de l'OTAN.
C'est juste, oui.
Donc tu aurais une réaction immédiate. Et il le sait, il est pas con. C'est un joueur d'échecs. Non. Ce qu'il veut, et depuis le début, il veut la paix. Il a jamais voulu la guerre. Jamais. C'est parce que l'OTAN...
C'est le vieux proverbe, qui veut la paix fait la guerre, c'est ça, tu veux
non.
Le dire.
Non, ça se tient aussi.
Non.
Ah, c'est fameux, c'est un proverbe non. Connu, ça.
Oui, mais ça, justement, c'est vieux.
Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est ce qui est dit.
Pourquoi les États-Unis savaient que Poutine allait rentrer et ils l'ont affirmé avec force, avant que ça se passe.
Parce que les troupes russes étaient abattues sur la frontière.
Non, mais
Des grosses troupes russes.
Mais tu amasses des troupes de l'OTAN à la frontière de la Russie, ça ne veut pas dire que tu rentres en Russie.
Non, mais pas si énorme que les troupes russes.
Non.
Tu n'es pas d'accord.
C'était un mouvement d'entraînement. Bon.
Soi-disant d'entraînement.
Pourquoi les Américains ont été si sûrs? Parce que depuis 1956 et l'affaire des missiles de Cuba, qui a failli dégénérer en guerre mondiale, j'entends plus rien.
Non, c'est bon, tu peux continuer.
On t'entend très bien,
Fabrice. On t'entend très bien.
Depuis 1956, il a été mis au point un système direct entre le président des États-Unis et le président de la Russie qui s'appelle le téléphone rouge. C'est-à-dire qu'en cas de gros problème ou d'alerte, avant d'envoyer les missiles,
il se téléphone. Heureusement, d'ailleurs.
Et je peux te dire qu'en fait, Poutine a appelé Biden. Et lui a dit, si vous maintenez votre projet de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, si vous continuez votre progression de l'OTAN, si vous continuez les bombardements sur le Donbass, parce que la guerre, elle a commencé en 2014 et pas en 2022, alors j'interviens en Ukraine. Et il a fait quelque chose. Alors, c'est jamais raconté. Mais il a fait quelque chose de tout à fait légal. Il faut savoir que la Charte des Nations Unies stipule qu'un pays peut protéger un autre pays sur appel de ce troisième pays. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reconnu les républiques autonomes du Donbass. À partir de là, c'était des républiques autonomes, donc des pays, des nations.
Non, mais là, c'était illégal.
Non, attends.
C'était illégal, puisque c'est des pays qui ont fait c'est des parties d'un pays
mais
qui ont fait sécession.
Pourquoi ils étaient bombardés depuis 2014 ? Il nous reste 10
petites minutes sur les ondes de Radio Galice.
Mais ils ont fait sécession parce qu'ils étaient bombardés.
Ça a été montré.
Ça a été montré. Et regarde que toute la défense ukrainienne, elle se fait sur les frontières du Donbass. Alors, je veux avancer sur un papier que j'ai fait qui me semble très important, que j'ai intitulé « La grande défaite américaine ». Il y a plusieurs défaites dans la défaite américaine. Il y a d'abord une défaite symbolique. Une défaite symbolique d'abord, car qu'en demandant à l'ONU un vote de sanctions contre la Russie, les États-Unis ne furent accompagnés que par les pays occidentaux. C'est-à-dire les deux tiers des pays du monde membres effectifs de l'ONU se sont soit abstenus, soit votés contre. Et en expliquant une chose, tu écoutais la position du Brésil ou de la Chine, qui est un allié objectif et matériel de la Russie, leur déclaration était toute simple. On n'est pas pour la guerre, on est contre cette guerre, mais c'est la vôtre. C'est la vôtre au sens, c'est votre guerre occidentale. Et c'est votre guerre entre les États-Unis et la Russie, ça ne nous regarde pas. Nous sommes d'accord ? La deuxième raison, une défaite territoriale. Une défaite territoriale ensuite du fait des avancées russes sur le front du Donbass, telles que le révèle la carte. Je te rappelle qu'au moment de la contre-offensive ukrainienne, les soldats russes étaient si mal équipés, les généraux russes étaient tellement nuls, qu'on s'attendait à voir débarquer les soldats ukrainiens à Moscou au bout de 15 jours. La réalité matérielle a montré l'inverse.
C'était aussi l'inverse. On s'attendait à voir les Russes aller à Kiev très rapidement au début.
Oui.
Et la réalité a montré...
Ça, ce sont les médias. Jamais Poutine n'a dit ça. Il a parlé d'opérations spéciales.
Poutine, il ne parle pas. Il parle très peu, ça, je suis d'accord avec toi. Mais on s'attendait aussi qu'en 2 minutes, l'affaire était réglée. Et au bout de 3 ans, c'est toujours pas réglé.
Alors, tu sais pourquoi, par exemple, il y a eu une opération militaire menée par les Russes par le nord, parce qu'en fait, le début de l'attaque, c'est le Donbass, c'est le sud. Puis après, il y a eu une colonne de chars, de blindés et de véhicules et de militaires russes qui est passée par le nord, donnant le drame de Butcha, dont on ne connaît pas la réalité. Hein. Faut pas se tromper. Il n'y a pas d'enquête internationale neutre. Donc on sait qu'a priori, tel que présenté par les médias occidentaux, ce sont les Russes qui ont massacré à Butcha, mais on n'a pas les preuves et on n'y a pas eu d'enquête internationale. Donc on ne peut pas, dans ces conditions, juger de manière tranquille. Parce qu'un jugement, c'est pas les gens qui sont acteurs du truc qui peuvent juger. Que des personnes extérieures. Tu sais pourquoi ça a été fait ? Ça a été fait pour immobiliser les divisions ukrainiennes qui auraient pu aller dans le Donbass et qui ont été obligées de se coller sur le nord. Ils se sont arrêtés à Butcha parce que leur consigne, c'était de s'arrêter à Butcha, pointe à la ligne. Et ça a gelé toute une partie des divisions ukrainiennes pour permettre les offensives sur le sud. Une défaite militaire du fait de l'incapacité militaire américaine à empêcher ses avancées sur le terrain, avec la fourniture des équipements. Sais-tu que les chars Bradley et... Bradley, ça c'est les Anglais, et Américains, j'ai plus leur nom, Abrams, en fait, ils étaient conçus pour le désert, puisque à l'époque, l'organisation militaire,
les campagnes tant pour les Anglais... C'était en Irak.
Il est évident qu'arriver sur le terrain qui n'a rien à voir avec le désert de l'Ukraine.
Qui est plutôt l'inverse.
Enfin, ils se sont enfoncés. Et en plus,
ils se sont enfoncés dans la boue
absolument,
ukrainienne.
Voilà. Exactement. Et ils ont été détruits. C'est ça la réalité. C'est-à-dire tu retrouves là une réplique de ce qui s'est passé au Vietnam. Tellement technologique qu'ils se prennent une raclée. Une défaite industrielle du fait de l'incapacité industrielle américaine à faire face aux besoins en armes suffisants. Jamais assez, tu remarqueras. On a toujours aidé, au niveau, en admettant que ce soit une aide, hein, moi j'appelle ça un enfoncement, mais on a toujours aidé l'Ukraine de manière trop tardive et de manière insuffisante. On est d'accord ? Bien. Une défaite technologique du fait que les équipements modernes américains n'ont pas surpassé la médiocrité russe. C'était, je m'en rappelle, le même argument technologique fusil M14 qui devait permettre la victoire au Vietnam. Or, si plus moderne et plus performant dans la jungle, ce fusil se déréglait, donnant en bout de course l'avantage à la Kalachnikov, plus rudimentaire, mais plus solide et réparable sur place, à coup d'élastique. C'est ça la réalité. Bon. L'avantage technologique spécifique d'une arme ne vaut que si elle est effective en situation de combat. Dans le cas inverse, l'avantage technologique se transforme en obstacle. Une défaite économique. L'un des objectifs de la guerre était d'imposer à la Russie un recul économique avec notamment la fin des contrats de gaz avec l'Europe, Nord Stream. Dans le réel, la Russie a juste réorienté son commerce vers l'Asie. Donc c'est encore une défaite. Une défaite politique. Enfin,
attention, il a réorienté son commerce, mais il a été obligé de vendre à des prix beaucoup plus bas. Ce qui lui fait entrer...
Le marché, non, mais...
Il est obligé, parce qu'il a des embargos, donc il brade pas, mais il vend à prix plus bas, et les autres profitent de ce pétrole est beaucoup moins cher. Mais donc, ils perdent de l'argent.
Non,
mais
Christian est bien éclairé sur le dossier de l'Ukraine. Tu sais, tu l'as remarqué, il nous reste 3 petites minutes sur les ondes de galère.
Tu sais...
Sur Radio Galère, on est là pour aussi contester ce...
Une défaite politique. Aux yeux du monde, cette guerre américaine était une défaite politique américaine. Voilà qu'avec cette guerre, il fallait empêcher le retour de la Russie dans le concert des grandes nations. Non seulement du fait de sa capacité à résister à l'Empire, elle démontre son existence comme grande puissance, mais aux yeux du monde, elle devient la nation qui aura su dire « niet » à l'Empire. Donc c'est encore une défaite géopolitique au niveau mondial. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Mais depuis, il y a eu les BRICS. Et les BRICS, c'est une attaque directe contre la domination du dollar. C'est-à-dire que l'objectif qui devait empêcher la Russie a encore échoué. Donc si tu veux, sur tous ces plans, c'est un échec patent. Et là, on a appris dernièrement, parce qu'il faut que je conclue, donc, malheureusement. On a appris
allez,
dernièrement
même, Fabrice.
Que... j'ai une poésie. Hein,
voilà, la poésie,
pour la fin.
La poésie, c'est le plus important dans ce monde terrible.
Donc, il y a eu... je vous ai envoyé d'ailleurs les documents hier. Il y a eu coup sur coup un article sur Slate. Slate, c'est pas un journal communiste. Hein. Et puis sur Yahoo, que il y avait à la fois un dépeçage de l'Ukraine, puisqu'une partie de l'Ukraine qui a été constituée en 45 était une partie des territoires de la Pologne, du fait de sa position de soutien à l'hitlérisme, a été donnée à l'Ukraine, ainsi que une partie de... Donc ça, ils sont en train de massacrer l'Ukraine pour récupérer les territoires perdus de l'époque, plus une spoliation, puisqu'il y a des terres rares en Ukraine, et les États-Unis veulent s'approprier les terres rares pour exploiter l'Ukraine. Enfin, voilà. Pour tout dire, donc, la puissance militaire américaine s'est heurtée la volonté politique d'un peuple de vouloir s'opposer à l'Empire. Et regarde que les yeux du monde, regarde qu'on a été chassés d'Afrique, on est chassés de partout, l'Occident. Bon, allez, je termine par une poésie.
Ah, un peu de douceur dans ce monde.
Non, parce que le titre, c'est « Ce monde qui fonctionne à l'envers ».
Ça fait assez de la poésie quand même, c'est important.
Alors, je suis parti d'un petit truc qui s'appelle « Écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête ». Joli.
C'est joli.
« Ce monde qui fonctionne à l'envers. Comme ce monde n'est plus que désordre, le cerveau en aucun cas ne peut être ordre. Car l'humain n'est que le prolongement de son étrange et perturbant environnement. Là où tu penses en permanence maîtriser, tu n'es que le jouet des forces dominantes qui t'incitent à dévaler du côté obscur de la pente dans des inclinaisons à la pensée aseptisée. Alors il te reste l'écriture en poésie, celle qui confine à l'hérésie. Les vers décrivent les intimes dévers de ce monde qui fonctionne à l'envers. »
Très joli. Bravo d'avoir terminé avec cette très belle poésie. Et tiens, une âme de poète, il faut que tu travailles plus ton âme de poète que ton âme de géopoliticien, à mon avis. Mais bon, ça, c'est une remarque personnelle.
Non, c'est parce que, en fait, ce que je dis, ça t'embête.
Non. c'est pas la question n'est pas là, mais c'est bien qu'il y ait une contrepartie et une réplique, comme dirait Frykenkov. donc voilà. C'est des avis partagés, c'est un certain regard, il y a un autre regard, et c'est bien de montrer les deux côtés de la facette.
D'accord, je te promets que le boulot que j'ai fait, là, c'est...
Non, tu as fait un très bon travail de recherche, tu es vraiment un érudit dans le domaine, mais c'est bien d'apporter aussi la contestation à tes propos, sinon ça serait de la propagande, et sur Radio Galère, on ne fait pas de propagande, tu le sais bien ça.
Ouais. Non, mais... J'aime bien titiller.
C'est l'ADN de Radio Galère. Propagande, on laisse ça à d'autres médias que tu connais très bien, puisque tu les étudies sans cesse.
Absolument.
Hein, voilà, on est bien d'accord. Anthony, on termine, on va passer une petite...
Il nous reste 30 secondes pour conclure.
30 secondes, mais...
Le dernier mot, évidemment, peut-être pour Dany.
Pour Dany, le dernier mot. Il va nous dire que finalement, il ne baisse pas les bras. C'est pas possible qu'un garçon comme lui baisse les bras.
Non, c'est quand même le fruit d'une longue réflexion et d'un long aboutissement. Donc je reviendrai pas sur ma décision. Il faut que la vie soit belle. Il faut que la lutte soit belle. Et quand la lutte n'est plus belle, il faut aller vers d'autres. Donc maintenant, je vais voyager, je vais m'occuper de ma maison, je vais m'occuper de mes enfants.
Tu vas cultiver ton jardin.
Ouais, comme a fait Voltaire.
Exactement.
Et voilà, mais à aucun moment j'oublierai les instants formidables que j'ai vécu. Et je vais être comme Johnny Hallyday, je vais partir avant d'être pathétique.
c'est ce que certains diront pour Renaud. Voilà, et j'aime bien le personnage.
Exactement.
Voilà, mais tu es loin d'être grabataire et atteint intellectuellement et physiquement. Donc c'est pour ça qu'il y a cette frustration, mais on le respecte totalement. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, parce que je suis sûr que tu feras malgré tout.
Tu vas faire un beau jardin, puisque tu as cultivé ton jardin.
Oui.
On viendra le voir.
En tout cas, je remercie infiniment l'équipe de Radio Galère. Ça a été à chaque fois des moments extrêmement intenses. Et je remercie aussi les auditeurs de Radio Galère de nous aider. Auditeurs et auditrices.
De leur patience.
De leur patience. Et de leur indulgence.
Et de leur indulgence. C'est ce qu'on
voilà. Et de tout ce qu'ils ont appris à vos côtés. Merci en tout cas.
Appris,
Fabrice, reste avec nous pour poursuivre tous les premiers mercredis de chaque mois d'Economicus. Mais il manquera quand même les annonces de Dany. On est habitué depuis
maintenant des années. Je te propose aussi autre chose, c'est que j'aimerais bien venir pour expliquer ce que c'est que la poésie.
On aura l'occasion d'y revenir.
Exactement.
Merci, Dany. N'est pas un adieu, évidemment.
C'est un au revoir. C'est un au revoir.
Plaisir de te recroiser, évidemment. Et merci à Fabrice pour le travail remarquable. Vous avez vu, c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, je pense que pour l'Ukraine, on peut peut-être faire un deuxième volet le mois prochain. Je pense qu'il y aura matière à. Les médias auront pris part, en tout cas, à ce dossier-là et ces 3 ans-là. Tu en as dit une bonne partie, mais je pense qu'il manquait encore des choses. Forcément, on a eu un peu moins de temps aujourd'hui. Et puis, Christian était extrêmement relançant et pertinent. Donc voilà, ça fait partie aussi du jeu d'avoir la pluralité, la diversité.
On est obligé d'intervenir, Fabrice. Hein.
Mais complètement.
On ne peut pas laisser faire.
Gims sur les ondes de Radio Galère. Et tout de suite, puisqu'on a la bagagerie qui arrive, mais surtout, Illusion. On va parler d'Illusion avec Valérie, avec Adadi, pour nous parler d'un super projet théâtral, danse, musique, rire, émotion, IA. Vous allez le voir avec Alberta, l'intelligence artificielle, qui intervient dans le théâtre. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt, mon cher Dany. Merci.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt, vous deux.
Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux, t'as envie.
les choses, t'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut, c'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te perdre. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel.
Et eux.
Est-ce qu'on Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission 9h33 sur les ondes de Radio Galère. On était un petit peu à la bourre, mais c'est aussi ça Radio Galère, c'est évidemment la réactivité, le direct. Voilà, on salue nos amis d'Economicus, d'Economicus qui étaient avec nous, Fabrice Aubert et Dany Bruet qui était là. Dany Bruet pour sa dernière, c'était un vrai moment d'émotion en tout cas, et on le regrette déjà, mais on sait que on va rester en contact et ça, c'est précieux. Voilà, Fabrice a donc évoqué pendant près de 30 minutes un gros volet sur les 3 ans de la guerre en Ukraine. Désormais, on va mettre de la poésie, et Fabrice en est un vrai adepte. On va mettre de la légèreté, de la poésie, mais surtout de l'attractivité. On vous invite à aller sur les moteurs de recherche, à taper Valérie Mickel, Illusion, aller taper sur les moteurs de recherche ces différentes thématiques. Et c'est le volet culture sur les zones de galère. Valérie Mickel est avec nous, danseuse, comédienne, chorégraphe et metteur en scène.
Et on en passe parce qu'il y a d'autres casquettes encore.
Exactement. Accompagnée d'Adadi Saïda, qui est technicien son au sein de cette structure donc, et de ce projet théâtral qui s'appelle donc Illusion. Il va nous expliquer un petit peu. Il joue le rôle de l'invisible Alberta Lia, l'intelligence artificielle. On va l'évoquer. Avant ça, bonjour Valérie.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour
et bonjour Adadi.
Bonjour.
Voilà. Merci Adadi. On est ravis de vous accueillir sur les ondes de Radio Galère. Merci d'être là.
Il va faire notre sono parce que c'est... Ça déconne parfois sur Radio Galère.
On a de bons techniciens, ne va pas offenser nos techniciens qui sont à l'écoute.
Un complément.
Absolument pas, sinon on va se faire taper sur les doigts. Et je
non, ils sont bons, nos techniciens sont bons.
C'est un travail remarquable à la matière, Clément aussi, par le passé, Joachim, Doc, voilà, saluons-les parce qu'ils font un boulot remarquable.
Avec peu de moyens surtout, c'est ça.
Et voilà, nouvelle table de mixage aussi qu'on a depuis une quinzaine de jours. On vous le rappelle, on n'a pas encore l'interaction avec les téléphones, le standard ne fonctionne toujours pas.
Voilà, il pourrait nous aider alors, notre ami.
L'intelligence artificielle arrive. Hein,
vous en... Ah voilà, l'intelligence artificielle, c'est juste.
Exactement. Alors on y vient. Valérie, je t'ai présenté. On va aller un petit peu droit au but, évidemment, sur le projet Illusion pour lequel vous êtes là ce matin pour nous en parler. Mais avant ça, un mot sur la bagagerie, parce qu'évidemment, la casquette est large au sein de vos activités, aussi bien toi Valérie qu'Adadi, puisque Adadi aussi est bénévole et siège au conseil d'administration de la bagagerie. Un petit mot sur la structure Valérie, vraiment pour ceux qui ne connaissent
rappel,
pas le lieu.
Oui,
et puis un petit peu les rouages, parce que ces derniers temps, il faut le dire, c'est complexe, et ça devient délicat malgré toute le bon entrain que vous développez, la bonne énergie.
Exactement. Alors la bagagerie, c'est un lieu d'accueil pour les SDF où on a en particulier 50 casiers parce que le problème principal d'un SDF, c'est ses bagages parce qu'il s'est fait voler. Donc on a 51 casiers qui sont d'un mètre cube en moyenne, qui sont sécurisés. Et en même temps, on a des canapés, on a une petite cuisine, on a un lieu d'accueil, on a un salarié, on va bientôt en avoir deux en mi-temps qui essayent de les réintroduire dans la vie quand ils volent et de faire tous les papiers administratifs, des vêtements, enfin voilà, c'est un lieu d'accueil.
On rappelle que c'est très important d'avoir une manière de stocker, Christian, ses bagages.
Bien sûr, quand on est dans la rue, on est dans la merci de tout ce qui peut arriver dans la rue. Et il peut s'en passer des pires et des meilleurs, des pas meilleurs d'ailleurs. Mais donc, il faut avoir un endroit pour mettre ses papiers, surtout tout ce qui est important. Et là, c'est une initiative qui est formidable. À quel endroit c'est, tiens,
On a déménagé parce qu'on a vraiment eu une année assez difficile.
Est-ce que vous êtes agrandi, alors, du coup ?
C'est un peu plus grand, un endroit qui n'est pas l'idéal pour une bagagerie qui s'occupe de SDF, c'est-à-dire qu'on est juste à côté du Square Labadie. On est 3 rues des Héros. Et le Square Labadie, c'est un square où il y a énormément de problèmes de drogue, de prostitution. Et on n'a pas du tout été, au départ, bien accueillis. Parce que
c'est vous qui avez été là-bas, c'est un lieu.
On n'avait pas le choix quand on nous a annoncé que
on devait quitter les anciens locaux, on a dû trouver au plus rapide.
C'est vous qui avez trouvé ce lieu.
En fait, oui, c'est nous. On avait personne. On a essayé de tous les côtés, personne ne nous a aidés, et le seul local qui nous a accepté, c'est celui-là. Donc on l'a pris. On n'avait pas le choix parce que sinon on se retrouvait à fermer des films.
Vous retrouvez à la rue comme ceux que vous accueillez.
Voilà,
tout
exactement,
simplement.
Avec tout ce qu'on avait. Donc on a pris ce local, mais on a compris un petit peu après pourquoi ça a été facile de nous faire rentrer, étant donné qu'en fait personne ne veut rentrer à cause du coin.
Lieu. À cause du lieu,
qui est vraiment, et le lieu lui-même est très chouette. C'est l'ancien centre de yoga, mais
on rappelle, vous avez changé de local. Hein.
Voilà, maintenant on est 3 rue des Héros, et on a que des ennuis avec le local lui-même. Là, on a encore eu toute bouchée, des inondations. Enfin, je veux dire, mais
est-ce que ces réglages vont être rectifiés par la suite? On peut augurer plutôt une projection plutôt bonne, ou c'est quand même, ça restera complexe? Je m'adresse à vous deux.
Ça restera complexe, on n'a pas beaucoup d'espoir et on espère, mais on a aussi des problèmes financiers. Enfin, c'est vraiment galère, et c'est vraiment parce qu'on est une équipe, mais vraiment super, qui se serre les coudes, aussi bien au niveau des bénévoles que le CA et que le bureau. On vraiment serre les coudes, on passe son temps, et toujours dès qu'il y a un truc, on est là.
Vous êtes solidaire entre vous, c'est ce qui permet de faire tenir.
Tout le monde est investi dans le projet.
Est-ce que la ville fait quelque chose ou rien?
Pas grand-chose.
Il faut le dire.
Non, sérieusement, la ville, par contre, elle nous assiste pas énormément.
Non.
Bon, donc il faut faire un appel qui fasse plus pour vous et pour tous ceux qui sont dans la rue,
c'est plus important.
C'est ça. Mais c'est plus les priorités, hein, faut être réaliste. On essaie.
Et c'est bien regrettable. En tout cas, on vous souhaite évidemment, et on souhaite, parce qu'on rappelle que c'est pas dans l'intérêt de Valérie ou d'Adadi, qui est un joli local pour tout simplement venir. C'est dans l'intérêt évidemment des personnes qui sont sans domicile.
Et bien sûr.
Voilà.
Et c'est très important pour eux. C'est comme un peu leur maison. Ça leur permet de trouver un équilibre, un endroit où ils peuvent se réchauffer. Bon, bien sûr, on peut pas les héberger la nuit.
Mais... c'est un lieu sûr, en tout cas, pour leurs affaires. Et ça, c'est très important.
C'est ça. Ouais.
Exactement.
Conserver leurs papiers, leurs affaires importantes.
Puis être un peu chez eux, en fait, parce qu'en plus, on a bien investi, on avait acheté des canapés, on a vraiment essayé de rendre le lieu très, très agréable, plus que là où on était. Mais bon, je ne pense pas qu'on pourra y rester longtemps, parce qu'il y a trop de problèmes. Mais on n'a pas l'argent pour déménager.
Est-ce qu'il y a une alternative? C'est ça le problème dans les mois à venir?
Pour l'instant, c'est la première alternative qu'on a, c'est les financiers. Il faut qu'on ait réellement de quoi tenir l'année et d'aller jusqu'au bout.
C'est d'ailleurs payer le truc du local, c'est ça
le loyer, le salarié. Damien, qui est notre salarié, que vous aviez reçu.
Tout à fait.
Et qui va passer en mi-temps. Et comme ça, Jonathan va être aussi, on va avoir deux mi-temps, ce qui va permettre, parce que c'est très difficile, tout ce qui se passe non plus, c'est pas non plus évident. Hein.
Il faut être solide, très solide.
Donc on va passer sur deux mi-temps, ce qui va nous permettre de ne pas accentuer nos frais. Comme ça, ils vont pouvoir se seconder l'un et l'autre. Et puis,
c'est intelligent.
Voilà. Et puis, on cherche les sous. Voilà.
Bien sûr. On connaît ça, évidemment. En tout cas, force à vous et bravo pour le travail que vous accomplissez avec beaucoup de cœur à Dadi et Valérie et puis tous les autres, puisque vous n'êtes pas que vous deux, c'est important de, de le rappeler.
On est 6 au CA, on est 6 au CA bureau, et puis les bénévoles, on est à peu près une 10-12 bénévoles qui sont là à tourner tous les soirs, puisque la bagagerie, c'est que c'est les bénévoles le soir. Le matin, c'est Damien, et le soir, c'est les bénévoles.
On peut rappeler les horaires, peut-être, aussi, comme ça, pour les personnes qui nous
Et puis ensuite, on enchaîne avec Immersion.
Alors, les horaires, le matin, c'est de 7h30 à 11h30.
Oui.
Et le soir, on n'ouvre pas tous les jours, parce que, vu le lieu, j'ai obligé qu'on soit à deux, qu'on soit en binôme, parce que c'est trop... Voilà, il y a trop de problèmes. Et donc, le soir, c'est le mardi, le jeudi et vendredi, samedi. Dimanche.
Voilà, c'est ça. Voilà. De 18h à 19h30.
Voilà.
Merci pour ces informations. 9h41 sur les ondes de Galère. On a une petite vingtaine de minutes pour parler d'illusions avec, donc, je le répète, Valérie Miquel, comédienne, danseuse, chorégraphe, metteur en scène. Et donc, Tigrou Leblanc, qui devait être là et qui a eu un impondérable professionnel. Et évidemment, il est totalement excusé, qui est lui comédien, auteur, compositeur et chanteur. On aura peut-être l'occasion de le recevoir prochainement. Et on va parler aussi d'Alberta, puisque c'est Adadi qui est présent avec nous.
En
rôle de l'IA et du technicien son, donc l'intelligence artificielle menée donc par Adadi Saïda qui est avec nous sur les ondes de Radio Galère. Et on va donc parler d'Illusion. Ça se passe le 8 février à 20h au Théâtre du Lacidon. 3 montées Saint-Esprit dans le deuxième. Les prix sont extrêmement accessibles. On parle de 12€ et de 10€ pour un tarif réduit. Il y a les réservations. Vous tapez illusionspectacle@gmail.com, illusion au pluriel, spectacle au singulier.
Ils peuvent venir aussi directement parce que le théâtre est grand. Donc,
oui, c'est vrai, le théâtre est grand du Lacidon.
Il n'y a pas besoin de paniquer pour eux.
Alors, on veut tout savoir. On a 17-18 minutes. On veut tout savoir, Valérie, sur ce projet Illusion.
Alors, Illusion, c'est parti par... on a déjà travaillé ensemble, Tigrou et moi, depuis il y a 3 ans. On s'était perdu de vue, on s'est retrouvés alors que je faisais une conférence sur mon livre. Tigrou était venu et à la fin de la conférence, il me dit « Bah dis donc, j'aimerais bien retravailler avec toi ». Je lui dis « Bon, bah écoute, justement, la dernière création avec Zali, ça s'était arrêté, donc je lui dis « Bah on y va ». Et on est parti, on partait sur l'idée, c'est ça qui est très drôle, de partir sur l'idée du racisme, puisque Tigrou est...
Ce n'est pas drôle, le racisme, je te le rappelle.
Bref, nous partions sur cette idée-là. Et en fait, d'ailleurs, qui peut faire un gros parallèle entre une pièce que nous aurait demandé à l'intelligence artificielle de nous écrire, c'est-à-dire qu'on lui aurait dit on veut faire une pièce sur le racisme.
Tiens, ça serait drôle de savoir. Ouais.
Voilà. Et or, nous sommes partis de là et on a dérivé complètement dans nos délires d'écriture, puisqu'on a écrit ça à tous les deux. Et on est arrivé à un rapport avec l'intelligence artificielle. Et à un grand hôtel dans lequel, en fait, c'est vraiment satirique. Et c'est aussi un appel pour dire, oui, on peut utiliser, bien sûr que c'est important, mais surtout ne pas vouloir nous remplacer par cette intelligence artificielle, et nous, en particulier les artistes. C'est pour ça que dans le rôle, il y a... donc moi, je représente Léonie Lumineuse, qui est une grande, très très grande danseuse, chorégraphe, qui a travaillé dans le monde entier, qui est hyper connue. Et Tigrou Leblanc joue Ziyad Sewanyana, qui est un homme amélioré, et qui a le désir de me mettre...
Il est bien amélioré, je vois la photo.
Mais alors lui, il est très amélioré dans l'histoire, mais de façon très satirique, et il a l'ambition de me mettre dans le métaverse.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors voilà, et c'est de m'envoyer dans le métaverse.
Hein, c'est-à-dire la transformer en une personne dans l'IA, en fait.
Un esprit.
Voilà, qui va être envoyé partout dans le monde, sur toutes les ondes et tout. Et elle n'est pas du tout prête à ça.
C'est pourquoi que ça s'appelle, on le rappelle, Illusion.
Voilà, oui, tout à fait.
C'est ça l'idée. Hein.
Exactement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc on se rend compte dans cet hôtel qui est un hôtel 100% high-tech avec personne, mais par contre, une intelligence artificielle qui s'appelle Alberta. Dans tous les textes qu'on avait écrits...
Pourquoi Alberta? Parce que normalement, on sait qu'on a la pub Alexia qui fonctionne vraiment, qui est utilisée dans certaines... demeure et hébergement. Alberta, pourquoi? C'est rigolo, je trouve.
Ça nous est venu comme ça.
Eh ben, c'est très bien.
Comme beaucoup de choses, comme le nom Ziyad Sewanyana, ça c'est le nom de Tigrou quand il joue. Moi, c'est Léonie. Tout ça nous est venu au fur et à mesure qu'on créait.
Ça s'appelle l'inspiration artistique. Voilà,
exactement.
Le talent,
et qui est vraiment drôle d'ailleurs, parce qu'on en a fait une satire assez extraordinaire de comment ça peut ne pas marcher non plus aussi, et comment on veut dépendre de cette intelligence artificielle qui n'est pas l'univers parfait qu'on peut souhaiter. Et aussi, c'est un appel d'ailleurs par rapport au spectacle vivant, parce qu'on est vraiment dans une période où on veut nous éteindre complètement. Et on nous raconte que, bien sûr, il faut tout mettre, tout enregistrer et tout mettre en ligne. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller.
Qu'est-ce qu'on fait sur Radio Galère ? On met tout en ligne ici. Hein.
Voilà. Mais nous, les artistes, comme je le dis d'ailleurs, parce qu'à la fin, il y a aussi d'autres artistes qu'on représente, parce qu'on joue plusieurs personnages. On a des artistes, eux, vivants, les artistes de rue, puisque dans notre univers, il n'y a plus de théâtre, tout a pratiquement disparu. Et il reste que quelques artistes de rue qui sont un peu à résister. Donc Bob Mornay et Fifi la Guêpe, puisqu'on joue plusieurs personnages, et qui, eux, représentent ce qu'est la vie, en fait. Et à la fin, on comprend que effectivement, un spectacle vivant sans spectateur, c'est rien qu'un brouillon, ça reste une répétition.
Qu'une illusion, quoi.
Voilà, c'est une illusion, voilà. Et qu'on a fait un grand appel en terminant en disant, et que l'humain reste humain à jamais, parce qu'on peut l'utiliser, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de nous remplacer, parce que nous, on a un cœur et une âme.
On est bien d'accord, et c'est extrêmement représentatif chez vous, au-delà de la bagagerie, puisqu'on parlait tout à l'heure du cœur que vous mettez à l'ouvrage, mais même évidemment dans tes pièces, dans ces projets artistiques-là, et depuis longtemps pour te suivre, le cœur est toujours au rendez-vous,
ah
et
ouais.
Ça serait bien quand même qu'on accepte, enfin on peut accepter l'intelligence artificielle, mais par contre de remplacer l'humain, absolument
pas. Surtout pas, surtout voilà. Pas.
En fait, on est d'accord avec
et
ça.
Et c'est vraiment un appel.
Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qu'on pourrait remplacer par l'intelligence artificielle. Ça serait pas mal.
Ça, c'est une,
mais
c'est
je tirerai pas dedans.
Parce que c'est une autre histoire.
Je suis d'accord avec toi, mais bon.
Alors, justement, un mot avec Adadi sur Alberta.
Oui, c'est
l'intelligence
lui, Alberta, alors,
artificielle. C'est alors, expliquez-nous un petit peu, voilà, comment vous allez œuvrer, comment ça va être interprété. On garde évidemment le suspense et le mystère pour aller ce samedi 8 février au Théâtre du Macédon, hein, dès 20h. Vous avez vu les tarifs, c'est extrêmement accessible. Puis après, on parlera de l'autre date.
Des autres dates, oui.
Voilà, du 15 février, théâtre, 14 et 15 mars.
Oui.
Mais là, on est sur le 8 février. Parlez-nous un petit peu, Adadi, de cette fameuse voix d'intelligence artificielle.
D'accord. Donc, Alberta, elle est plus avec donc Monsieur Tigrou, puisque lui, il adhère déjà au métaverse. Mais par contre, il contredit beaucoup Léonie, qui, elle, n'est pas encore persuadée de vouloir adhérer à l'IA. Et bon, à la finale, quand même, elle réussit à convaincre Tigrou que mieux être resté humain.
Et ça, c'est important. Est-ce que, sans absolument pas t'offenser, Valérie, mais est-ce que c'est aussi, parce que je vois qu'il est très jeune, on a un volet intergénérationnel. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que il y a des générations qui pourraient accepter plus facilement l'IA? Je pense à nos jeunes générations, je pense à nos enfants, hein, qui ont la dizaine, la quinzaine, la vingtaine pour nous. Mmh. Et le fait que nous, 40, 50, 60, 70 ans, on est moins adapté, on est moins au goût du jour, et c'est ce qui pourrait poser un problème.
Alors, c'est une question de génération, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, est-ce que c'est peut-être une question de génération?
C'est-à-dire que nous, et Tigrou aussi de notre génération, et donc on a vécu avec autre chose, on n'a pas vécu avec que les ordinateurs. Donc effectivement, nous, on a toujours ce rappel d'autre chose, d'une autre vie, de l'humain, qu'on perd petit à petit. C'est pour ça qu'on veut lancer un appel quand même, et que les gens réalisent qu'on peut l'utiliser, mais ça ne doit pas devenir notre fonction de vie. C'est surtout ça, en fait.
Alors, tu penses que ça va devenir notre fonction de vie, l'intelligence artificielle? Non, c'est très utile aussi. Bon, là, on parlait, par exemple, de la bagagerie, les gens qui sont dans la rue. En général, ils ont tous un téléphone plus ou moins dans la rue,
oui,
quand même. C'est un secours d'avoir un téléphone.
Tout à fait.
Et d'avoir une intelligence artificielle qui peut répondre aussi à toutes leurs questions, ça peut être très intéressant pour eux, parce que chercher un lieu d'accueil, chercher où est la bagagerie, etc., avec des intelligences artificielles, ils peuvent répondre instantanément à leurs demandes, et même autre chose au niveau administratif.
Après, il y a des utilités dans l'intelligence artificielle, mais il y a des inconvénients dans le sens des pertes d'emploi. On parle de chômage, mais avec l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça augmentera.
C'est pas remplacer l'humain.
Je fais un peu l'avocat là, parce qu'il n'y a personne pour la défendre. Mais je veux dire, c'est comme toute avancée scientifique.
Il faut utiliser le bon, mais pas aller dans l'extrême. Et c'est vraiment. Et en fait, pour le dire, Alberta, en fait, j'ai enregistré tous les textes par
l'intelligence.
Par l'intelligence artificielle qui a pour avoir cette voix. Parce qu'il fallait que je sois réaliste.
Oui, et on rappelle, c'est un enregistrement qui est utilisé.
Voilà, et donc, mais en fait, du coup, ils travaillent tout le temps avec nous, ils répètent autant avec nous, puisqu'en fait, en permanence, elle nous pose des questions, elle répond, elle intervient en plein milieu, jusqu'à la fin, elle est tout le temps là, cette fameuse Alberta. Donc, Haddadi, il est exactement comme un acteur comme nous. Sauf qu'il n'a pas de texte à dire, puisqu'il lui, il appuie sur un bouton, mais c'est hyper important.
Ah,
parce
mais
que
il a un rôle prépondérant malgré tout. Évidemment.
Ah oui, parce qu'au moindre, il y a vraiment. On répète tout le temps ensemble.
Et qui fait les questions, parce qu'il faut quand même la questionner, l'intelligence artificielle. Donc,
ben, on ne la questionne pas, en fait. C'est elle qui nous.
C'est elle qui
J'interviens.
Intervient, en fait, en permanence. Et, d'accord. Et c'est vraiment drôle. Et puis, dans cet hôtel high-tech, il y a pas, comme il y a personne, Tigrou le Blanc, Ziyad Sewanyana, lui pose les questions et c'est elle qui doit normalement me diriger pour ma chambre et tout, sauf qu'elle me comprend pas du tout.
Voilà.
Ma voix n'est pas compréhensible pour elle, ce qui arrive très souvent. On a fait une caricature de quand on est au téléphone et qu'on veut essayer d'avoir, et non, veuillez répéter s'il vous plaît. Bon, et veuillez répéter si vous voulez, je n'ai pas compris. Ben, en fait, c'est un peu. Donc, on a vraiment caricaturé. Les gens rient beaucoup.
Oui, et ça arrive souvent aussi, même dans les voitures, où on a par exemple cette intelligence artificielle qui nous permet par exemple de demander à une voiture, voilà, mets-moi la musique ou appelle-moi par exemple, appelle maman.
Ouais.
Et puis on se rend compte parfois qu'on demande appelle maman et puis ça appelle papa.
Et c'est pas ça.
Ça appelle l'amant.
Ouais, voilà, exactement.
Voilà, là, ça appelle ma femme et c'est
la maîtresse.
C'est la maîtresse, là c'est très ennuyeux.
Là par contre, c'est un problème d'ordre moral. Évidemment, et on vous encourage pas à ça, auditeur.
Non, attention, on est en
comédie là.
Exactement. 9h53 sur les ondes de Radio Galère, toujours avec Valérie Miquel et Haddadi Saïda pour nous parler de cette pièce de théâtre qui aura lieu ce samedi 8 février à 20h, qui s'appelle Illusion. Ça a également lieu d'ailleurs, on le rappelle, dans le premier au théâtre. D'ailleurs, c'est très peu connu et je t'invite dès maintenant, si tu le permets, Valérie, d'inviter le Lacidon et d'inviter le théâtre Afrigui Digi.
Ils sont les bienvenus sur Radio Galère, bien
ouais,
sûr.
De les inviter à l'antenne.
Bien sûr.
On les a pas eu, je me sens.
Dans les prochaines semaines.
Je n'y manquerai pas.
Ça serait un vrai plaisir. Parlons-nous aussi de ces partenariats, parce qu'après, il y a aussi un séjour à Paris quand même.
Oui,
pour cette
on
pièce-là.
A aussi trois dates à Paris au mois de mai. On va partir
c'est
sur Paris.
C'est la gloire, c'est ça.
C'est la grande tournée, oui.
C'est la grande tournée, là.
Voilà, et ben on est super contents de pouvoir.
À quel endroit à Paris, tiens?
À Paris, au théâtre Pandora Bastille, c'est à Bastille. Un petit théâtre qui est à Bastille, Pandora. Et là, on a trois représentations. Ça va être un peu. Ça va être speedy, puisqu'on arrive le vendredi. On répète, on est sur scène à 20h le vendredi soir, 23 mai. Le 24 mai, on y est à 21h. Et le 25 mai, on est à 15h.
Voilà, donc ceux qui ratent à Marseille, ils peuvent aller à Paris.
Voilà. Mais bon, à Marseille.
Tout n'est pas perdu.
À Marseille, on a aussi encore 4 dates, puisque au Afrigui Digi, on est le 15 février. Et ensuite, on est au mois de mars, le 14 et le 15 mars. Et ce que je voulais dire aussi, c'est Tigrou, parce que Tigrou n'a pas pu venir. Mais Tigrou, c'est un excellent, d'abord, chanteur, interprète, qui crée tous ses propres chansons et aussi comédien. Et en fait, on ne fait pas que du théâtre, puisque moi aussi je suis danseuse. Donc Tigrou chante et il a une voix magnifique, vraiment géniale. Et en plus, puisqu'il peut se transformer, il a un.
On danse un rock tous les deux.
Voilà, on danse un rock endiablé tous les deux. Voilà, donc c'est très très varié. C'est pas du tout. Enfin, d'ailleurs, les gens, quand ils sont venus, ils ont vraiment adoré. Puisqu'on a fait une première à l'atelier Cévin de Ring au mois de septembre. On a fait deux représentations et on a vraiment eu un super succès parce que les gens ont ri. On pensait même pas qu'ils riraient autant. Et depuis, on a retravaillé sur la pièce.
Ils vont encore plus rire, alors, c'est ça.
Voilà. Et on a rajouté beaucoup d'Alberta qui est encore plus à venir nous s'interférer dans notre.
Finalement, la vraie vedette, c'est Alberta.
C'est bien moi.
Voilà. Mais Alberta ne veut pas se montrer, voilà.
C'est ça. Je suis discret, je suis trop timide.
Voilà,
exactement. Mais justement, on va pas dire non plus, Christian, que Alberta, c'est le. Puisqu'on vient de dire qu'on voudrait pas que l'intelligence artificielle remplace l'humaine. Donc on va pas dire que c'est Alberta l'élément prépondérant de la pièce.
C'est une vedette, Alberta.
Enfin, elle est quand même. Quand même, ramenons les choses à l'essentiel. Les vedettes, c'est quand même tous les deux.
En chair et en os.
Exactement.
Voilà. C'est l'humain. Et c'est vraiment la dernière phrase que je dis après avoir dansé et que Tigrou.
La finale.
S'aperçoit et dit ou non, je comprends et qu'il va arrêter de me harceler et qu'il dit vive le spectacle vivant. Et la dernière phrase, c'est que l'humain reste humain à jamais.
C'est comme ça
qu'on termine le spectacle.
Voilà, ça termine en beauté. Il nous reste trois petites minutes. Valérie, comment est cette inspiration? Alors, Tigrou Leblanc est venu te voir sur un précédent spectacle, mmh. et du coup, il y a eu cette connexion. Mais comment tu as mis en scène, pourquoi tu as ciblé ce genre de thématique-là aussi, parce qu'il y a une inspiration. Tu es danseuse, comédienne, chorégraphe et surtout aussi metteur en scène. Donc, dis-nous un petit peu cet ADN artistique, en tout cas, parce qu'en tout cas, ça donne envie de venir te voir le 8 février au Théâtre du Lacidon, à 20h.
Mais en fait, cette création, elle a été totalement en intuition. On l'a écrit à tous les deux. On se voyait une fois par semaine. On a mis 6 mois de création, en fait, pour la création. Ouais. On se voyait une fois par semaine.
Avec l'humour, quand même, qui est bien présent.
Oui,
hein,
tout le temps. Et c'était dès le départ, en fait, parce qu'on est assez... Voilà, on s'entend très bien, on aime bien rire tous les deux. Et on passait des messages. Je pense qu'à l'époque actuelle, on a besoin de les passer avec l'humour. C'est là où ça passe encore mieux. Et donc, mais on est parti vraiment en délirant, en écrivant. On écrivait. Après, on avait toute la semaine pour se corriger. On s'envoyait des messages. Et puis, on se réunissait
C'est une écriture à deux, alors
voilà.
C'est ça.
Ah oui, c'est voilà. Une écriture à deux. Là. Ouais. C'est une co-écriture et on s'est super bien entendus tous les deux. Ça a vraiment été très facile. Voilà, après des petites frictions parce qu'il y en avait un qui voulait faire ça et l'autre, bon, maintenant c'est pas bon. Mais c'est tout. Et on a vraiment écrit à deux mains sans aucun problème.
Est-ce que ça va continuer alors cette merveilleuse association?
Pourquoi pas? Mais on ne sait pas voilà. Ce que nous réserve la vie. pour l'instant, on
Est-ce
veut
qu'il y a quelque chose qui est en écriture, en attente là, peut-être?
Ben, on va faire de toute façon, on va écrire en toute l'histoire. Et puis pour nous présenter, enfin on va faire un storyboard, c'est justement Thirou qui a eu l'idée et on va mettre en ligne des storyboards un peu sur toute l'histoire justement parce que les spectateurs aiment savoir un peu tout et l'histoire est un peu spéciale, c'est vrai qu'on a cette création, nous-mêmes on a été étonnés, on a découvert à la fin qu'est-ce qu'on voulait dire, au début on se lançait, il y a aussi une fameuse chamane qui s'appelle Katitsa Neurone, faut vraiment tous les noms sont sortis, on ne sait pas comment
sont sortis du chapeau,
voilà parce que j'ai voulu aussi un peu aborder ce sujet de notre époque où il y a beaucoup de charlatanisme au sujet de tout le monde se dit chaman, tout le monde se dit prêt à faire. Donc il y a une petite passage très satirique. Je n'ai rien contre, au contraire, je suis un peu.
Tu es pour la satire.
Voilà,
quand même,
mais sur un petit peu aussi, parce qu'il y a aussi l'autre côté. Il y a le côté où on veut rentrer dans l'ésotérisme, mais il suffit de faire 15 jours de quelque chose pour qu'on devienne soit ça. Donc il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on aborde en plus, puisqu'on change. Il y a beaucoup de changements de costumes, ça. C'est un peu speedy parce qu'on est vraiment, c'est calculé à la seconde près pour pouvoir re-rentrer en scène avec d'autres costumes pour jouer d'autres personnages ou d'autres parce qu'il y a des lieux différents dans lesquels on se trouve. Enfin, c'est vraiment un plaisir de travailler tous les trois.
J'ai vu qu'on pourra manger aussi.
Alors ça, c'est
donné.
À Frikidigi.
Alors
explique-moi. Ça, c'est le 14 février,
voilà.
15 et 16 mars.
Voilà. Il faut l'annoncer. Alors,
et là, après le spectacle, donc le spectacle dure 1h20, la création, et après, il y aura un repas qui est proposé. C'est pour ça qu'il y a deux prix, et y a 10, c'est 10 euros pour le repas. Et
magnifique.
Voilà, donc, spectacle et repas, c'est le menu déjà.
J'en touche à sa fin.
Je ne sais pas encore. C'est une surprise pour le menu. C'est Kélé de Frikidigi qui dirige.
Avec peut-être à consonance africaine, on imagine.
Certainement.
Eh ben, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et donc le régal en perspective.
Le régal est assuré. C'est ce que tu veux dire.
Exactement. Et puis moi, l'Afrique, vous savez qu'il y en est.
C'est ta grande passion, ayant
habité si longtemps, et je suis toujours en contact avec.
On n'en doute pas.
Ouais,
un vrai amour pour l'Afrique. Et on salue notre coco, Christian, qui nous a quittés il y a déjà une dizaine d'années.
Qui est maintenant, qui vit en Afrique pour l'éternité.
Oui, exactement. Ah, exactement. Qui était, on l'appelait la Sénégaloise. Voilà. Elle adorait le Sénégal. C'était
Sénégal.
Une Française.
Et moi, je viens de perdre mon danseur de la compagnie contemporaine en Ouganda, que j'y dirigeais, qui est décédé, qui était mon frère, qui m'a guidée pour apprendre la vie en Ouganda. Qui m'a vraiment et qui est décédé il y a quelques jours malheureusement à 48 ans.
Pour appeler ton livre peut-être aussi.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours mon livre.
Oui, je suis désolé l'émission. Je t'en prie rapidement.
10 ans en Ouganda. Voilà, c'est un livre que je mets d'ailleurs toujours en vente.
C'est passionnant, une histoire, une aventure extraordinaire.
Voilà. Parfait.
Et je le mets dans tous les théâtres où je me représente. Si je l'oublie pas, il y a mes livres aussi.
Donc, merci beaucoup. Je suis désolé, il y a une émission qui va passer sur nos voix, donc je suis obligé de couper. Merci à Dadi.
Je vous en prie.
Merci à Valérie, c'était un vrai plaisir. Illusion samedi 8 février à 20h au Théâtre du Lacidon. Nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine exceptionnellement, mais dans 15 jours. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Je serai
en vacances,
exactement, exceptionnellement. C'est plutôt rare, parce qu'en règle générale, on fait que le mois d'août et Noël. Mais là, pour le coup, les enfants, priorité aux enfants.
On a besoin de vacances.
Et oui.
Donc, on se retrouve dans 15 jours. toujours fidèle à Radio Galère, et merci encore.
Et merci à
Valérie.
Est-ce qu'on pourra écouter cette émission?
Elle sera rediffusée, c'est Sidi qui va gérer.
Donc dimanche, on peut
qui va gérer la chose. Oui, de 11h à 13h,
dimanche.
L'émission sera rediffusée.
À midi, non, je crois.
De 11h à 13h.
11h et 13h.
Pour votre cas, ça sera de 12h30 à 13h. Voilà. Vous allez être audible, vous êtes en repas de famille, vous mettez Radio Galère, on entendra Adadi et Valérie qui parlaient sur les ondes de Galère. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Restez fidèles à Radio Galère. Merci,
Christian. Merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir.